Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Hein. On s'est accordé un petit week-end de repos la semaine passée avec le lundi qui précédait le 1er novembre. Eh bien, on va se rattraper aujourd'hui. On a une riche émission hein, qui va même durer presque jusqu'à 21h. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a en fil rouge le match du Paris Atlético. Il y a notre ami Abou qui est parti donc là-bas. Le match se terminera donc aux alentours de 20h45, 20h50. Donc il interviendra à la fin de cette émission. On commentera une abondante Actu Foot avec notre ami Eladji. Bonsoir Eladji.
Bonsoir Philippe.
Quelle quinzaine.
Hein, c'est ça.
Ouais, donc on va en reparler. Et ouais. Puis ce soir, bon, on a aussi un invité important, c'est de marque, c'est notre ami Jean-Pierre Mougin, le président du comité français pour le fair play. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir voilà. À tous.
Alors on va beaucoup parler des valeurs olympiques à travers votre association et puis ça nous permettra de revenir un peu sur le beau mois d'octobre qu'on a vécu avec la présentation du marathon des Jeux de 2024 et puis quelques journées après, donc la journée paralympique, on a fait tout plein d'interviews, Jean-Pierre, et on les a gardées spécialement pour vous, pour votre venue. Alors, très brièvement, comment on en arrive à la présidence donc, du comité français pour le fair play ?
Eh bien, c'était en tant que vice-président du comité olympique, puisque j'ai assumé ce rôle pendant de nombreuses années. Donc, j'étais invité régulièrement par le comité français du fair play, qui s'appelait à l'époque Association française pour un sport sans violence et pour le fair play.
Et créé par Fernand Sastre et Nelson Payou.
Absolument, exactement, en 1983. Ouais. Et donc, j'étais régulièrement à cette cérémonie, et le président de l'époque, Albert Bégard, malheureusement malade, qui est décédé depuis, a dit ben finalement, je te vois comme mon successeur légitime. Et donc, j'ai accepté cette mission. Et en 2015, je suis devenu président du comité français du fair play.
Voilà. Et puis, vous êtes un ancien champion de moto qui ensuite a été président de la Fédération de moto. Ça tombe bien parce qu'en fin d'émission, on aura aussi, outre le coup de cœur, coup de gueule de notre ami Stéphane Dezenclos, on aura un petit point aussi sur ce beau week-end de sport marqué par le tennis, marqué par le basket et aussi marqué par la moto avec notre ami...
Fabio Quartararo.
Ouais, avec Valentin, donc qui nous dira tout. Vous avez été président de la Fédération française de moto. C'est pas un sport olympique. Comment on arrive à être dans le giron olympique ?
Difficile d'être un sport olympique quand on s'occupe de sport mécanique. Par contre, le comité olympique et sportif français, le CNOSF, a toujours admis depuis très longtemps les fédérations non olympiques. Parce que plus on est ensemble, plus on est fort. Donc les olympiques et non olympiques, ça représente l'ensemble du monde sportif français. Ça représente quand même 16 millions de licenciés. Et les fédérations olympiques, c'est un certain nombre de millions de licenciés, mais les fédérations non olympiques ont un nombre de licenciés très supérieur également aux fédérations olympiques. Quoi. Donc on a toute légitimité et c'était un geste important de réunir ces deux groupes qui étaient dissociés un certain temps, qui aujourd'hui se réunissent pour être plus forts demain.
Oui. Et ça a été facile.
C'était facile.
Ne venant pas de sport olympique, d'être accueilli par la famille olympique.
Très facile. Et d'ailleurs, dans le cadre des Jeux de Paris 2024, il y aura une porte grande ouverte aux fédérations non olympiques, ce qui fait finalement que nous avons toute notre place dans le cadre de cette année 2024.
Très bien. Donc, on l'a dit, on reviendra sur toutes ces valeurs olympiques, également à travers toutes les interviews qu'on a passées et enregistrées dans le courant du mois d'octobre. On va commencer, comme la coutume le veut, par la rubrique foot. Vous aimez le foot, Jean-Pierre, non ?
Oui, j'aime regarder le foot. Je n'ai jamais été footballeur, mais j'aime regarder le foot.
D'accord. Eladji, donc, on l'a dit, quelle quinzaine, hein, puisqu'on ne s'était pas vu depuis 15 jours. Hein.
C'est ça.
Quelle quinzaine, on va naturellement revenir sur cette quinzaine à travers d'abord la fin des matchs de poule au niveau de la Ligue des Champions. Alors, concernant donc cette quinzaine, on va quand même rappeler d'abord qu'on avait eu un beau spectacle du Paris Saint-Germain grâce à son trio magique Mbappé, Neymar et puis Messi qui avait laminé Haïfa 7-2. Quel beau spectacle hein, pour le Paris Saint-Germain face peut-être à une équipe effectivement la plus faible du groupe. Et ensuite, la victoire du Paris Saint-Germain à Turin 2-1, même si tout n'a pas été parfait dans ce match. Il faut quand même reconnaître que c'est quand même un exploit. Je crois que c'est la première victoire du PSG à Turin. Et malgré tout, ça n'a pas suffi, puisque Benfica a fait l'exploit, après avoir battu 4-3 la Juventus, d'aller gagner pour son dernier match à Haïfa 6-1. Et donc, du coup, Benfica a eu une première poule à 14 points, devant PSG deuxième 14. Mais finalement, grâce au nombre de buts marqués à l'extérieur, c'est Benfica qui est devant Paris. Troisième, Juventus-Turin, 4 points. Et quatrième, Haïfa, 3 points. C'est vraiment quand même assez incroyable, quoi. Et du coup, Paris Saint-Germain, on l'a appris aujourd'hui, tombe sur le Bayern de Munich en huitième de finale de Ligue des Champions.
Pendant que le temps que Benfica tombe sur
FC Bruges.
Voilà.
Ouais, ouais.
Bah, c'est...
c'est une malédiction quand même.
Une malédiction, j'irai pas à dire une malédiction, parce que franchement, bon déjà, moi je trouve que normalement, en temps normal, enfin même avec l'équipe qu'on a, avec l'effectif qu'on a, on est obligé de terminer premier de cette poule. Oui. Avec, devant le Benfica. Excuse-moi, mais une double confrontation contre le Benfica, deux matchs nuls, c'est pas bon. C'est pas un bon résultat pour le PSG. Qui prétend au titre, c'est pas bon.
Ça a été vraiment l'égalité parfaite. Hein. Égalité sur le match particulier, sur les physionomies de match.
Le problème, il est là. On pouvait s'y attendre. Hein,
et pourtant, que le Benfica... sans défaite cette année, le Paris Saint-Germain. Parce qu'il y a eu des années où, dans des phases de poule, il y a eu
premier,
au moins
une
défaite devant Manchester City, le Real Madrid, Bayern de Munich.
Bon, après, là, on avait une équipe de la Juve décimée. Oui. Depuis le début de saison, et qui n'était pas bon aussi depuis le début de saison.
Qui a quand même posé quelques problèmes à Paris. Quand même.
Voilà, ça. Je ne dis pas le contraire, mais par exemple, en vue du premier match, le match aller, le match aller 2-1, bah, normalement, le match aller, on leur met 4-1. Quoi. Le match aller, normalement, on leur met 4-1.
Paris avait gagné 2-1 le match aller, et avait été gagné à Haïfa 3-1. Voilà.
Voilà. Et pour moi, même Haïfa, c'est des équipes contre qui on doit mettre plus de buts. Voilà, 7-2, ça n'a pas suffi. Et on pouvait s'y attendre que Benfica mette un score aussi à Haïfa. Fallait s'y attendre. Voilà, parce que là, dernière seconde, tout le monde est surpris, etc., etc., mais ça pouvait arriver. Comme de la façon dont on a battu Haïfa, Benfica, on n'arrive pas à les battre, Benfica joue contre Haïfa, c'est possible qu'ils leur mettent aussi un tarif, et c'est ce qui est arrivé. C'est dommage, mais maintenant, moi, peu importe contre qui on tombe en huitième, en quart, en demi ou en finale, moi, personnellement...
Vaut mieux tomber sur le Bruges que le Bayern, quand même.
Oui, vaut mieux tomber sur le Bruges que le Bayern, ok, mais à partir du moment où tu prétends être... l'un des meilleurs.
Faudra les battre à un moment.
Ouais. Voilà, si tu veux gagner la compétition, faudra battre toutes les grandes équipes. L'année dernière, le Real, ils ont mis Manchester City, Chelsea, PSG, Liverpool en finale. Voilà, un parcours de champion. Bah, on veut la même chose, on va commencer par le Bayern.
Voilà, alors l'autre club français qui est engagé, par contre, ça a été le gros fiasco, et je crois que Stéphane Desenclos commencera tout à l'heure sa chronique sur ce fait, l'élimination de Marseille, Marseille qui avait été battu à Francfort 2-1, et qui pensait pouvoir se qualifier, et qui est battu dans les toutes dernières minutes par Tottenham 2-1. Du coup, c'était un groupe où tout était possible, on pouvait finir premier comme dernier. Hein. Du coup, c'est Tottenham qui s'impose avec 11 points, devant Francfort, deuxième 10 points, troisième Sporting du Portugal 7 points, et quatrième Marseille 6 points. C'est la troisième élimination consécutive pour les Marseillais en Ligue des Champions.
Il y a 15 jours, Philippe, je l'avais annoncé qu'ils allaient perdre contre Francfort. Il y a 15 jours, j'ai annoncé qu'ils allaient perdre contre Francfort. Contre Tottenham, c'était pas encore arrivé, mais c'était une évidence.
Non, mais puis c'est le scénario catastrophe.
Scénario catastrophe. Pas une Europa League. Honte. Oui, oui. C'est la honte de la
comme
France.
Ça, perdre un match dans les toutes dernières secondes.
Quoi. Non, mais c'est vraiment la honte, quoi. Vraiment la honte. Voilà, t'es à domicile, tu dois. Dans tous les cas, tu dois conserver le match nul.
Bien sûr.
Voilà, surtout que vers la fin, ils étaient même pas, ils menaient même pas beaucoup d'assauts. Non, offensivement, c'était faible. Ils jouaient des centres, mais des centres ratés. Voilà, il y avait rien. Il y avait pas vraiment de box to box. À la fin, ils n'étaient pas vraiment en mode ultra offensif. Non, ils jouaient moyennement, mais ils se replaçaient pas.
Ah, c'est ça qui.
Ils se sont fait punir. C'est la Champions League ici.
Oui, non, mais
voilà.
Bien sûr. Alors, bon, on y avait cru un tout petit peu. Il y a eu deux victoires. Ça a été un petit peu mieux.
À la mi-temps, ils ont fait une première mi-temps remarquable.
Précédente.
Contre Tottenham, ils ont fait une première mi-temps remarquable.
Oui, mais bon,
moi, j'ai vu la première mi-temps. Je me suis dit, Marseille, ils vont se qualifier ce soir. Deuxième mi-temps, ils rentrent. Et voilà. Et c'est là qu'on voit un grand club, pas un grand club. C'est là qu'on voit le manque d'expérience, etc. Bah oui. Même un match nul, t'arrives pas à tenir.
Ouais.
C'est la honte.
C'est un club qui vu sur son passé. Sur le plan européen, tout du moins.
Oui, sur le plan européen.
Ça fera 30 ans l'année prochaine qu'ils ont été champions.
Ça remonte.
Oui.
J'étais pas né. Voilà, ça remonte.
Très bien. Alors, on va rappeler quand même que l'Atlético de Madrid aussi ne disputera aucune Coupe d'Europe, dernier de sa poule. Par contre, Barcelone et la Juventus sont donc reversés en Ligue Europa. On donnera tout à l'heure les affiches de ces huitièmes de finale. On va revenir maintenant sur les clubs français en Ligue Europa. trois clubs qui donc sont pour les 16e finale. Pour certains, ça aurait pu être mieux. Par exemple, Rennes, qui avait plutôt son sort bien parti. Hein, les Rennais, il leur restait deux matchs. Ils ont flanché sur la fin contre Fenerbahçe, donc 3-3. Ils ont été tenus 1-1 en échec par l'ANACA. Du coup, termine deuxième. Ils vont devoir passer par les barrages pour les 16e. C'est Fenerbahçe qui s'impose à 14 points, devant donc Rennes, deuxième avec 12 points, troisième l'ARNACA 5 et quatrième le Dynamo de Kiev 1. C'est quand même là aussi un scénario catastrophe pour les Rennais.
C'est quand même en vue de leur adversaire. Je pense que quand même c'est un adversaire assez costaud qui peuvent leur poser pas mal de problèmes.
Oui. Voilà. Mais comment ? C'est pareil, ils semblaient tenir le match et puis ils ont perdu le fil.
C'est
en
le
fin
manque
de match.
D'expérience.
Ils ont rejoint 3-3 donc, à domicile, puis 1-1 à domicile contre l'ARNACA. C'est un match à pas rater, quoi.
C'est le manque d'expérience, la mentale. Voilà, ils menaient 1-0 contre l'ARNACA, ils ont mis un deuxième but refusé pour un hors-jeu. Et ensuite, ils n'ont pas réussi à refaire le break derrière. Ils se sont dit, bon, peut-être 1-0. Ou je ne sais pas s'ils se sont dit le but hors-jeu était valide ou pas. Je ne sais pas. Mais après, voilà. Contre une équipe contre Arnaca, je ne sais pas. Mais on joue à domicile. Rennes, avec l'équipe qu'on voit, etc., ils sont obligés de les battre. Obligés au minimum. Mm-hmm. Voilà. Bah, c'est parce qu'ils
donc, ils vont jouer contre Donetsk en 16e de finale. C'est jouable quand même. Hein.
C'est jouable. Mais en vue du Shakhtar. En vue du Shakhtar, c'est dur d'aller gagner là-bas. Et même Shakhtar, c'est une très belle équipe. Offensivement, ils ont beaucoup de jeunes qui jouent très rapidement au ballon. Un reversé de Ligue des Champions et qui pose des problèmes même aux grandes équipes. On a dû le voir face au Real, etc. Voilà, c'est des attentions. Voilà, c'est une équipe attention quand même.
Alors, par contre, bonne surprise, c'est Nantes. C'était pas évident pour les Nantais d'aller arracher la qualification. Ils ont battu Karabakh 2-1. Ils sont allés gagner à Olympiakos 2-0. Donc, du coup, ils terminent deuxième de la poule derrière Fribourg. Fribourg, premier, 14 points. Ils ont largement dominé cette poule. Deuxième, Nantes, 9 points. Troisième, Karabakh, 8 points. Et quatrième, Olympiakos, 2 points. C'est vrai qu'ils ont bien dressé la situation. C'était loin d'être évident.
C'était très loin d'être évident parce qu'ils n'avaient pas un groupe facile et ils ont réussi à s'imposer. Mais bon, on espère le rêve nantais. Mais bon, là, je pense que contre la Juventus...
Oui, ils vont jouer la Juventus. C'est une vieille connaissance. Ça va rappeler des matchs des années 96.
C'est ça, exactement, années 96. Ouais. Mais voilà, mais ça va être très difficile, quoi. Ça va être très difficile. Contre la Juventus, voilà. C'est toujours du football, quoi. Une chance ou quoi que ce soit.
Mais enfin, ça sera du 60-40, là.
Je pense qu'on sera même sur du 80-20. Ouais, ouais. Parce qu'il y aura des retours de blessures, hein, comme les Chiesa, etc., qui ne jouent pas la Coupe du Monde et qui attendront la reprise avec impatience. Je pense que
c'est du 80-20. Puis il faut qu'ils sauvent la saison,
la Juventus. Vraiment, oui. Voilà. Du coup...
Et puis, troisième club français qui devra aussi passer par les barrages, c'est Monaco. Bon, ils avaient fait 1-1 à Ferencváros. Ils ont laminé l'étoile rouge de Belgrade 4-1. Bon, ils terminent deuxième de la poule, le même nombre de points que Ferencváros, 10 points. Mais c'est Ferencváros donc, qui s'impose avec donc, 10 points devant Monaco, deuxième 10. Troisième, c'est Trabzonspor 9. Et quatrième, l'étoile rouge donc, de Belgrade avec 6 points. Bon, Monaco, coup-ci, coup-ça. Deuxième, ils joueront du coup les Verkusen. C'est jouable aussi.
C'est jouable aussi, mais en vue de ce que les Verkusen, là, avec le nouveau coach, ce qu'ils commencent à donner, voilà, hier, ils ont infligé à Union Berlin 5-0 quand même, sont les premiers de Bundesliga depuis le début de saison et qui encaissent très peu de buts. Ils leur ont mis 5-0 avec un Moussa Diaby en feu. Attention. C'est trop tôt encore pour se prononcer parce que la Coupe du Monde n'est pas passée. On sait qu'il y aura beaucoup d'internationaux qui ne seront pas là. Mais après la Coupe du Monde, je pense qu'on y verra un peu plus clair et on verra, on pourra vraiment donner de vrais pronostics.
Donc 3 sur 3, mais ça aurait pu être mieux. On aurait pu se qualifier directement pour les 8e.
Ça aurait pu être mieux partout.
Bien sûr. Alors un club qui a bien rempli son contrat, c'est Nice quand même. C'était pas évident non plus. Les Niçois qui ont battu le Partizan de Belgrade 2-1. Qui sont allés faire 2-2 à Cologne et qui, du coup, terminent premier de leur poule en Ligue Europa Conférence avec 9 points devant le Partizan de Belgrade, qui a aussi le même nombre de points. Ça s'est joué au Golaourage, donc deuxième, 9 points. Troisième, Cologne, 8 points. Quatrième, Slovako, 5 points. Les Niçois qui sont directement qualifiés pour les 8e de l'Europa League. Ce qui n'était pas évident au départ.
C'était pas évident. Ils ont fait un bon match à Cologne. Enfin, un bon match. Ils ont réussi à être réalistes. Voilà, en vrai. Parce que j'ai regardé le match, Cologne était au-dessus, mais ils ont réussi à être réalistes. Et Cologne sont revenus à 2-2, ils ont failli arracher la victoire, mais ils ne l'ont pas fait, et pour le bonheur des Niçois. Du coup, voilà, je pense. Et là, Nice, ils sont...
Alors, pour l'instant, il n'y a pas de tirage. Les tirages, ils auront lieu après les barrages de Ligue Europa. Okay. Voilà. Hein, c'est-à-dire que... parce que, bon...
Ça va, ils sont premiers. Barrages, ils ont fini premiers, ça va.
Oui, ouais, donc ça, les matchs auront lieu au mois de février et les tirages auront lieu un tout petit peu après les matchs de barrage pour que...
Voilà.
Okay. Allez, et puis, ben, on va donner les affiches des huitièmes de finale de Ligue des Champions qu'on connaît. Donc, Leipzig, Manchester City, Bruges, Benfica... Autre gros choc, Liverpool-Real Madrid.
Ça, c'est Liverpool-Real Madrid.
Ah oui, mais ça, c'est un gros choc. Hein, une finale.
Très gros choc.
Hein, qu'on a eu quelques années en Ligue des Champions.
C'est celle qu'on a eu l'année dernière.
Oui, oui. AC Milan-Tottenham, c'est pas mal non plus.
AC Milan-Tottenham, c'est pas mal du tout. En fait, franchement, il y a eu des très bonnes affiches très équilibrées.
Dortmund-Chelsea, ouais. Inter de Milan-Porto. Et donc, quand même, le match qui est le plus gros choc, c'est le PSG-Bayern.
Le plus gros, avec Liverpool et Real. J'aimerais bien les mettre à l'intérieur. Non, franchement, c'est on aura de très belles affiches. On va se régaler dès les huitièmes de finale. On s'y attendait parce qu'on a vu que de très bonnes équipes terminaient deuxième.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'était. Maintenant, j'ai envie de te dire, Philippe, que terminer premier ou deuxième avec ça comme équipe, ça ne change pas grand-chose.
Ah non, pour certaines équipes, des fois, il y a un tirage qui est même presque plus
favorable de terminer deuxième que premier.
Très bien, bah on aura l'occasion d'en reparler en février. Juste un petit mot sur les Coupes d'Europe féminines. Hein. Real Madrid-Paris Saint-Germain 0-0, c'était la deuxième journée. Pour l'instant, les Parisiennes sont troisièmes. Hein. Chelsea en tête avec 6 points, devant le Real 4 points. Troisième PSG 1 point et quatrième, donc Soguer 0 point. Bon, c'est un début mitigé pour les Parisiennes. Et pareil pour Lyon, qui est allé faire 1-1 à Turin pour les Lyonnaises. Arsenal est en tête avec 6 points, devant la Juventus 4 points. Troisième Lyon 1 point et quatrième Zurich 0 point. C'est un début moyen pour nos féminines.
Un début moyen, mais bon, on y croit. On peut encore espérer.
Alors, elles ont encore 4 journées à jouer dans les phases de poule pendant le mondial qu'elles joueront.
Voilà, bah du coup, on a encore de quoi espérer, quoi.
Très bien. On va parler maintenant du championnat. 14e journée, Ligue 1, Ligue 2 qui se sont donc recalés. Bon, là, on n'apprend rien en disant que Paris continue son ascension, que Paris Saint-Germain creuse encore un peu plus les écarts. Il y a quand même eu la belle victoire d'Ajaccio contre Strasbourg, 4-2. C'est un match important pour la relégation. Lens qui va gagner à Angers 2-1. Paris qui va donc gagner à Lorient 2-1, victoire de Monaco à Toulouse 2-0, Nice qui bat Brest 1-0, nul entre Lille et Rennes 1-1, et le donc match des Olympiques hier, victoire de Marseille 1-0 devant Lyon. On a quand même le sentiment que la dynamique est un peu cassée à Lorient.
À Lorient non, franchement, Philippe, je ne pense pas.
Il y a des défaites, en fait, hein.
Comment ?
Il y a quelques défaites maintenant.
Oui, en fait, c'est plus dernièrement. Là, tu peux dire ça, Philippe, mais franchement, moi, en tout cas, en vue du match, Lorient aurait pu s'imposer hier. Le PSG s'est imposé, mais avec beaucoup de difficultés quand même. Ils ont beaucoup de difficultés.
Ils ont joué petit hier, ils n'ont pas voulu prendre de risques.
Bah, pas beaucoup. En tout cas, il y avait 1-1. Terem Moffi a mis une barre Son action a fini sur la barre. Il y avait 1-1 à ce moment-là. Il aurait pu prendre l'avantage. Il l'a raté.
Ouais. Mais ils ont quand même perdu quelques matchs avant Lorient. La dynamique, elle s'est un petit peu quand même effritée.
Ils ont perdu juste contre Nice.
Oui.
Ils ont perdu contre Nice juste avant. Sinon, ils restent sur deux matchs. Un match nul à 3 et un autre match nul à Lorient. Bon, ça commence à ralentir, mais on savait que ça ne pouvait pas perforer comme ça longtemps. Mais après, ils sont tombés contre une très belle équipe de Nice. Maintenant, ils ont perdu contre le PSG. Mais il faut savoir que Terem Moffi était blessé. Ces deux, trois derniers matchs, il était blessé et c'est lui l'homme fort. Ouais. Et là, il est venu, il a remarqué face au PSG, vous voyez, pour vraiment montrer. Moi, je pense que non, je m'en fais pas beaucoup pour les l'orienter. Je pense que prochain match, ils gagneront ce match.
Alors, on va rappeler qu'il y aura encore une journée. Après, il y aura la coupure Coupe du Monde et puis on jouera pendant les fêtes de fin d'année. Donc, Paris Saint-Germain, après cette 14e journée, 38 points. Devant Lens, 2e, 33. 3e, Rennes, 28. 4e, Marseille, Monaco, Lorient, 27. Et puis en bas de tableau, donc, on voit que c'est encore très serré. Hein. 3 et 13e à 14 points. 15e, Montpellier, Auxerre, 13 points. 16e, Nantes, 12 points. 17, Ajaccio, 11 points. Et 18, Strasbourg, Brest, 10 points. Et 20e, Angers, 8 points. Donc on voit que c'est encore très serré quand même, hein, en bas.
C'est encore très serré en bas. Je pense que ça jouera jusqu'à la fin de saison. Ouais. Parce que tout se tient sur à peu près 3 points.
4 qui descendent cette année.
Et 4 qui descendent cette année. Du coup, c'est pour ça que chaque victoire, chaque point, tout est précieux. Tout est précieux. Mmh. Voilà.
Alors, 14e journée aussi de Ligue 2 avec le Paris FC. Alors, Jean-Pierre, le Paris FC, vous connaissez parce que vous avez fait une opération un petit peu particulière avec les hommes du président Ferracci, qu'on a vu d'ailleurs la semaine dernière dans un match de Coupe de France gagné aux Ulis 3-1. On l'a interviewé et on aura l'interview la semaine prochaine.
Voilà. Effectivement, on s'est rapproché du Paris FC, puisque comme vous le savez, suite à des incidents entre Paris FC et l'Olympique Lyonnais au mois de décembre dernier, donc il y a une sanction assez dure de la Fédération française de football, puisqu'ils ont été condamné à 3 mois sans spectateurs. Donc, pour le retour du public, ça s'est passé le 19 mars en ce qui nous concerne. Nous avons décidé d'en profiter pour inaugurer et faire connaître un nouvel hymne, l'hymne des supporters du Comité français du Fair Play. Donc, pour montrer que finalement, les supporters, ils sont indispensables, mais ils doivent aussi respecter un certain nombre de choses. Et donc, cet hymne a été vraiment bien perçu. C'était chanté par l'auteur, compositeur Jacques Duperron. Et puis, nous avons fait venir une certaine, plus que 1000 jeunes. 1000 jeunes sont venus de l'UNSS, de l'USEP et également des villes labellisées terres de jeu sur toute la région parisienne. Donc ces gamins-là découvraient pour la première fois, ils avaient 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, un match en vraie grandeur. Et donc ils ont été ravis, ils avaient des petits drapeaux bleu, blanc, rouge, ils avaient des t-shirts aux couleurs du fair play. Et donc ils en ont bien profité. Et nous sommes très heureux d'avoir fait cette opération. Et j'espère maintenant, j'ai sollicité le président Le Graët et le président de la Ligue également, Vincent Labrune, pour qu'on puisse éventuellement passer de temps en temps cet hymne au début d'un match de Ligue 1 ou de Ligue 2, pour montrer que finalement on pense aussi on a besoin.
Il n'y a jamais assez de sensibilisation.
On a besoin d'avoir des supporters, mais des supporters respectueux. Et aujourd'hui, ce qu'on voit également, les débordements, c'est totalement inacceptable pour l'image du sport. Donc il faut que tout le monde fasse un effort et que les supporters comprennent qu'on a besoin d'eux, mais qu'ils doivent aussi être fair play.
Alors c'est vrai que la saison elle est un peu plus calme cette année, mais l'année dernière, on a eu pas mal de débordements. Hein. Paris FC Lyon, on a vu aussi un Marseille-Nice, on avait eu aussi Lyon, ça s'était pas bien passé entre Marseille et Lyon. Donc c'est vrai que, bon, je ne sais pas si c'était l'effet post-Covid qui jouait, mais enfin bon, là cette année on est revenu un peu plus...
À la norme, on va dire.
À la normalité, dirons-nous, hein, c'est ça. Voilà, alors justement, les résultats de Ligue 2, le Paris FC, ils ont gagné à Bastia 1-0, victoire de Nîmes qui a battu Bordeaux 1-0, ça c'est une défaite importante pour, malheureusement pour les Girondins de Bordeaux, Le Havre qui va gagner à Quevilly-Rouen 1-0, Annecy qui bat Sochaux 2-1, et puis Grenoble qui va gagner à Rodez 1-0. Ce soir, il y a un match qu'aurait fait, il y a quelques années, l'affiche de la Ligue 1, Metz-Saint-Etienne, à 20h45. Et pour l'instant, c'est le Havre.
Il y a beaucoup d'années quand même, Philippe.
Oui, oui, bien sûr.
Beaucoup d'années.
Ah, mais moi, je parle de nos générations.
Oui, voilà. Oui, oui.
C'est bien. Ouais, donc, le Havre en tête avec 29 points, devant Bordeaux, deuxième 27, troisième Grenoble 25, quatrième Sochaux 24. Le Paris FC, il est 9e avec 20 points, avec Guingamp et Pau. Et on a 16e Dijon-Nîmes, 14 points. Ensuite, on a 18e Rodez, 12 points. Et 19e, donc, Saint-Etienne et Niort, 11 points. Là aussi, on voit que c'est serré quand même. Hein.
C'est serré, ça se tient à partir de Valenciennes, j'ai envie de te dire. À partir de Caen même, parce que ça se tient sur 7 points. À partir de Caen, ça se tient à peu près sur 7 points. Ça se tient à rien, quoi. Même Bordeaux, ils ont perdu là contre Nîmes, ça a été un petit freinage, mais je pense qu'ils vont s'en remettre. Je pense qu'on va voir Bordeaux l'année prochaine en Ligue 1.
Oui, je pense c'est aussi plutôt bien parti. Quoi.
Oui, c'est bien parti.
Allez, on passe au National. Alors, on l'a dit, ce soir, c'est la 11e journée. Abou est au stade donc pour nous faire vivre sur Twitter le match entre le Paris Atlético et Orléans. Donc, vous pouvez, en même temps que nous écouter, suivre ses commentaires sur Twitter. Oui. 11e journée, on a eu quand même la victoire de Versailles à Châteauroux 1-0. Et pour l'instant, Versailles est deuxième avec 19 points, à 5 longueurs de Concarneau, 24 points premiers. Le Restart est 9e avec Avranches, 14 points. Et puis 15e, on a Villefranche en Beaujolais, Borgo et le Paris Atlético. Mais enfin, bon, tout ça, il faut attendre des matchs de ce soir avec 10 points. Et le 18e, c'est Saint-Brieuc avec 5 points. À noter qu'il y a aussi ce soir le Restart qui joue contre Dunkerque à 21h. Donc, victoire impérative pour le Paris Atlético. Hein.
Voilà, pour se donner une très grande bouffée d'air.
Oui.
Parce que pour sortir de la zone de relégation, il nous les faut, ces 3 points, pour monter à hauteur du Red Star, Avranches, et être dans limite la première partie de tableau, quoi, parce qu'on peut même dépasser Orléans. Être 9e, ça serait...
Ouais, ouais.
Voilà, ça se tient sur un rien, mais il faut, voilà, en tout cas, faut pas perdre. Je pense, voilà, gagner, ça serait très bien, mais je pense qu'il ne faut pas perdre aujourd'hui. D'accord. Au moins un petit match nul.
Donc
pour
tu viens nous en reparler à la fin, vers 21h, hein, un petit peu avant 21h, quand Abou interviendra, ok ?
D'accord.
D'accord. Et puis juste un petit mot sur les féminines, hein. Paris FC Bordeaux 1-1, PSG Montpellier 2-2, Guingamp Lyon 0-0, il n'y a eu que des matchs nuls. Donc ce sont les Lyonnaises qui mènent le bal après 7 journées, donc avec 19 points devant le PSG, 17 points, 3e PFC 15 points. Bon, bah c'est les classiques, les habituels.
C'est ça, c'est les classiques, c'est les habituels, hein, ça ne change pas beaucoup. Mm-hmm. Mais voilà.
Très bien. Un petit mot, LHJ, quand même, sur. On en parlera bien la semaine prochaine, hein, ouais. Sur la liste. Hein, Didier Deschamps est en train de peaufiner sa liste. On a une bonne nouvelle, Varane sera disponible.
On a une autre bonne nouvelle, c'est que Giroud sera en Coupe du Monde.
Ouais,
sera là pour la Coupe du Monde, c'est ça la bonne nouvelle, je pense.
D'accord.
Que Varane soit là.
On pourra donc décortiquer tout ça la semaine prochaine.
C'est ça.
Et puis on fera un petit point sur les championnats étrangers. Il y a des pronos, non, pour les prochaines journées, non ? Non.
Pour les prochaines journées.
Ouais, non, pas trop pour les championnats étrangers. Non.
Pas trop.
Voilà, on va marquer une petite pause. Ouais. Et ensuite, ça sera la Coupe du Monde, c'est ça,
hein, c'est
on
ça.
On aura l'occasion
bientôt
d'en reparler.
La Coupe du Monde, ouais.
On va rentrer en configuration. Coupe du Monde. Allez, on va écouter pour clore le chapitre foot. Tiens, bah notre ami, la rubrique de notre ami Stéphane Desenclos. Alors, c'est vrai que Stéphane, il va naturellement nous remonter toute cette quinzaine. Et je suis sûr qu'il va commencer par les déboires de l'Olympique de Marseille.
Impossible de parler de la semaine qui vient de s'écouler sans évoquer le fiasco de l'OM en Ligue des Champions. Avec ce dénouement incroyable mardi au Vélodrome. Alors que l'OM tenait au moins la 3e place, il s'est découvert et a fini par tout perdre. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est l'analyse lunaire d'Igor Tudor après le match. Si les Marseillais se sont découverts pour chercher la victoire et la qualification pour les huitièmes de la C1, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas réussi à dire les enjeux de la fin de match à ses joueurs. Incroyable, mais vrai. Je vous rappelle que les Anglais ont égalisé avant l'heure de jeu et que le dernier remplacement marseillais a eu lieu à la 84e minute. Il y avait donc largement assez de temps et de moyens, comme faire passer le message via les entrants, par exemple, pour faire passer cette info. Ce n'est pas sûr toutefois que cela aurait changé quelque chose au fiasco marseillais. L'OM termine donc à la dernière place de ce groupe, une triste confirmation du niveau du club aujourd'hui, le 4e niveau du football européen. Le PSG n'a pas été épargné non plus. La semaine dernière, il a fait le job en gagnant à Turin, contre une bonne équipe de la Juventus, mais finit seulement deuxième. Car dans le même temps, et oui, personne n'y avait pensé, Benfica s'est imposé 6-1 à Haïfa. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, Paris est devancé par les Portugais en raison d'un plus grand nombre de buts inscrits à l'extérieur. Mais Paris doit surtout regretter, en fait, de ne pas avoir été capable de battre le Benfica au Parc une semaine plus tôt. Un petit but de Paris en plus, une victoire, et il n'y aurait pas eu question... Cette question des buts marqués à l'extérieur. Résultat des courses, les Parisiens affronteront le Bayern en 8e de finale, match retour en Allemagne, alors que les Portugais, eux, joueront contre Bruges. C'est pas la même ambiance. Et sauf que finalement, on s'en fiche, car pour gagner la compétition, il faut sortir les grosses équipes. Et on a vu ces dernières années que le Bayern était plus facile à éliminer par match aller et retour qu'à battre en finale. Donc, finalement, c'est peut-être une bonne chose. En attendant, c'est la Coupe du Monde qui va capter toute notre attention dans les prochaines semaines. On aura d'ailleurs largement l'occasion d'en parler ici. Ah, j'oubliais, il y a encore une journée de Ligue 1 à jouer le week-end prochain. Pas sûr d'ailleurs que l'on voit les stars du PSG sur la pelouse à cette occasion. Après tout, Paris peut battre le promu sans la MNN, non ? Avant, il y a un événement aussi que tout le monde attend. Qui tient tout le monde en haleine, c'est la liste de Dédé le mercredi 9 novembre, avec ou sans Giroud. C'est devenu la question qui alimente les débats. Ça fait un peu penser, vous ne trouvez pas, au débat sur Benzema avant la Coupe du Monde 2018, sauf que cette fois, Olivier Giroud a toute la France derrière lui.
Voilà donc pour la rubrique de notre ami Stéphane, hein, qui complète bien ce qu'on a dit. On le retrouvera naturellement très rapidement, hein, sur le site du quotidien du sport.fr, hein, comme d'ailleurs toutes les semaines. Mais c'est vrai que ce que vient de dire Stéphane, ça complète le point foot. Hein,
c'est ça, ça complète.
C'est exactement ce qu'on a dit.
Voilà, c'est exactement ce qu'on a dit. Ça complète tout l'ensemble, que ce soit du côté de Marseille, du côté du PSG ou même du côté d'Olivier Giroud. Enfin, sauf une petite précision, moi je vous annonce que Olivier Giroud sera parmi la liste. Voilà, ouais. C'est sûr.
Ça paraît quand même difficile de faire autrement, surtout après les prestations qu'il a faites les dernières semaines.
Bien sûr, mais
surtout en Coupe d'Europe cette semaine. Hein,
bien sûr, mais dernièrement même, c'était difficile de ne pas l'appeler avec les rassemblements de l'équipe de France. Mais ça s'est quand même fait, quoi. On ne l'appelait pas, or qu'il était censé être là, en vue de ses performances, en vue de tout. Mais on ne l'appelait pas et il n'y avait pas forcément de raison. Là, maintenant, il y sera et je pense que c'est pour le bonheur de tous les Français.
Eh bien, on décortiquera tout ça la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de match en semaine. Et comme l'a dit Stéphane, il ne reste plus que des journées, une seule journée de championnat avant de faire la pause mondiale. Allez, on écoute la première pause musicale, chemise, She Can't Love You. Et ensuite, on va parler d'olympisme et des valeurs olympiques et des valeurs du fair play avec notre invité Jean-Pierre Mougin.
I saw who you were with too. When I saw you last night, I could easily see she was holding you so tight, 'cause she knows you want me. Oh no, but she can't love you. She can't love you like I love. She can't love you.
Olympique et fair play, c'est complètement lié.
Effectivement, bah oui. C'est les trois valeurs, les trois socles du Comité international olympique, c'est excellence, amitié, respect. Voilà. Excellence dans tout ce qu'on fait, dans le sport comme ailleurs. Amitié partout, dans le sport, mais aussi partout dans la vie. Et puis respect des règles, respect de l'arbitre, respect des autres. Voilà, c'est trois valeurs fondamentales qu'on a déclinées en plusieurs documents. Le code du sportif, par exemple, que j'ai ici sous les yeux. Se conformer aux règles du jeu, respecter les décisions de l'arbitre.
Respecter facile actuellement, hein, nos
absolument.
Jours,
hein. Respecter adversaires et partenaires, refuser toute forme de violence et de tricherie, comme on voit malheureusement encore, être maître de soi, être loyal dans le sport comme on la vit. Voilà, des belles valeurs finalement qu'on espère pouvoir insuffler parmi tous les jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui, dès l'école, dès le plus jeune âge et dans les clubs sportifs en particulier.
Oui. Vous pensez que c'est plus compliqué aujourd'hui, c'est plus difficile, peut-être avec l'extrême médiatisation?
Oui, c'est un peu plus difficile aujourd'hui et il y a un certain nombre d'exemples négatifs qui finalement font un petit peu boule de neige. Malheureusement, ça sert malheureusement d'exemple négatif et on voudrait plutôt montrer des belles choses. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera des iris du sport.
Oui, oui, oui.
Mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus sensibles avec les réseaux sociaux à tout ce qui se passe. Et on a fait une enquête également sur la cyberviolence chez les jeunes sportifs. C'est assez dramatique de voir l'addiction aux réseaux sociaux, le fait que des gamins jusqu'à minuit, ils jouent des paris sportifs, certes pas cher, mais ils demandent de l'argent aux parents, de l'argent aux copains, etc. pour pouvoir financer les paris, certes à 5 euros. Mais tout ça fait finalement mauvais effet. Et je pense qu'on a un gros rôle à jouer, nous, les fédérations, mais également avec l'État, bien sûr, avec le ministère des Sports et le ministère de la Santé, puisque l'addiction aux réseaux sociaux, c'est très grave pour la santé des jeunes.
Alors, il va y avoir un énorme rendez-vous qu'on attend tous, c'est Paris 2024. On espère changer un petit peu de philosophie, que le sport deviennent véritablement importants dans notre société. C'est aussi le but des Jeux.
On espère deux choses avec les Jeux Olympiques au titre de l'héritage. On appelle ça l'héritage. Ouais. C'est d'une part faire de la France une nation sportive. Aujourd'hui, on a des sportifs de haut niveau, mais ce n'est pas vraiment une nation sportive. On n'est pas dans le peloton de tête, en Europe en particulier, en termes de pratiques sportives. On est à 40% qui font un petit peu de sport, pas régulièrement. Donc on aimerait finalement changer la chose et faire en sorte que ces Jeux puissent faire finalement un effet bénéfique sur les Français en général. Les Jeux, mais également au niveau de l'entreprise. Et le comité olympique également travaille beaucoup sur le sport en milieu professionnel pour faire en sorte que tous ces salariés qui aujourd'hui ont des difficultés burn-out, etc., la pression, le télétravail, tout ça a un effet négatif sur les salariés des entreprises. Donc on aimerait que le sport, de manière générale, puisse irriguer la jeunesse, les familles, mais également les seniors qui en ont besoin, enfin toute la famille. Et donc c'est l'enjeu numéro un, c'est faire de la France une nation sportive et faire en sorte que ces Jeux, ils reste quelque chose, il restera des équipements, on le sait, mais il restera aussi, on l'espère en tout cas, une image forte des Jeux Olympiques, une image forte de nos champions français. Et si on fait tout ça, c'est pour avoir aussi des médailles à Paris en 2024.
Bien sûr, alors ça va commencer par le marathon, donc qui est quand même un rendez-vous important. Hein. On a eu la chance de vivre un mois d'octobre assez exceptionnel pour Paris 2024 et pour l'Olympisme. Hein. Et je l'ai dit, on a gardé ces interviews pour vous, parce que c'est vrai qu'on va avoir un marathon un petit peu particulier. Hein. L'épreuve des hommes se déroulera le 10 août, l'épreuve des femmes le 11 août, c'est-à-dire qu'on a interverti. Et ça, c'est pour la parité.
C'est très bien que ce soit les femmes qui terminent. On a déjà la parité dans les équipes engagées, puisqu'il y a autant d'hommes que de femmes dans ces Jeux Olympiques de 2024. Et on souhaite mettre justement les femmes à l'honneur et au même niveau que les autres, que les hommes. Et donc ce marathon olympique qui se terminera le 11 août, le lendemain du marathon homme, c'est également un geste fort pour les femmes.
Oui, parce qu'on va rappeler que les Jeux Olympiques, ce sera du 26 juillet au 11 août. Et puis, ça va se dérouler sur un parcours quand même historique, parce qu'il va y avoir le sport, mais il va aussi y avoir l'histoire, hein, puisqu'il va reprendre une partie de l'itinéraire de la marche révolutionnaire, populaire et féminine, qui avait donc...
Qui de 1789,
le 5 octobre.
Quand les femmes sont montées au créneau jusqu'au château de Versailles pour voir le roi Louis XVI de l'époque, et finalement, elles ont eu raison, puisque derrière, il y a eu la signature des droits de l'homme et du citoyen par le roi Louis XVI de l'époque. Je crois que c'était un geste fort qui restera dans les annales.
Et ben c'est justement ce que nous a dit le maire adjoint des sports de la ville de Paris, hein, chargé du dossier Paris 2024, Pierre Abadan, qui avoue que la date du 5 octobre, elle avait été volontairement choisie.
Oui, bien sûr, c'était aussi pour ça que cette date avait été cochée. Donc voilà, c'est une symbolique forte. On a voulu évidemment marquer le coup autour, vous le savez déjà, mais d'un logo commun qui symbolise quelque chose, comme vous l'avez vu. Et puis autour des premiers Jeux entièrement paritaires, avec autant d'athlètes hommes que d'athlètes femmes. Donc finalement, c'est la réparation d'une anomalie qui n'aurait jamais dû exister, mais voilà, il a fallu un peu de temps et on est content de le célébrer. Je crois que de finir par le marathon des femmes, que ce soit La dernière épreuve qui sera traditionnellement décorée lors de la cérémonie de clôture est aussi quelque chose qui correspond à ce qu'on veut faire de ces jeux. Voilà, des jeux ouverts avec et aussi le marathon pour tous qui a été qui empruntera le même parcours. Tout ça et va dans le sens des jeux très ouverts que l'on souhaite mettre en place et des jeux iconiques et sortant un peu de ce qu'on a connu jusqu'à présent.
Oui, parce que Madame le maire l'a dit, hein, il y a aussi la transformation écologique.
Oui, voilà, on a depuis la phase de candidature voulu placer les Jeux de Paris comme un accélérateur des transformations, notamment environnementales et écologiques de la ville de Paris. Ça sera un héritage important, mais elle participe dans notre politique du quotidien. Aujourd'hui, ici même, ce matin, on faisait la conférence annuelle de la sortie du plastique à usage unique et les Jeux nous y aident puisque l'échéance, c'est 2024. Donc vraiment l'organisation de la politique publique de la ville et des transformations nécessaires, notamment avec les changements qui nous attendent en matière environnementale, doivent passer et c'est ce à quoi on s'emploie par l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques, et le marathon s'inscrit dans cette dynamique.
Oui,
et
puis sur la transformation, je voulais rebondir là-dessus, ouais. J'avais deux questions. Il y a des travaux qui étaient envisagés au niveau du Trocadéro, entre Trocadéro et Tour Eiffel. Le marathon va passer, pas exactement par là, mais dans ce secteur. Est-ce que ça va, on va dire, de débloquer des choses? Est-ce que du coup, ces travaux devront être finis avant les Jeux? Les travaux qui étaient bloqués un temps par le préfet allemand, bon, ça a changé. Et la deuxième chose, c'est est-ce que la cimenterie, la farge qui est sur les quais de Seine, vers ici,
il y en a plusieurs. Hein.
La grosse qui est...
Oui, c'est ça, hein.
Est-ce qu'elle va arrêter pendant les Jeux pour...
Alors, son activité pendant les Jeux, pour vous répondre à votre deuxième question, je ne peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des contraintes, notamment avec la mise en place du marathon et du parcours, qui nous oblige déjà à réfléchir à, plus généralement l'organisation, j'allais dire, généralement des chantiers ou leur mise entre parenthèses pendant une certaine période en 2024. Ça, c'est une vision globale qu'on a, pas simplement sur les cimenteries, hein, mais par ailleurs, la vie ne va pas s'arrêter non plus, donc il faut voir comment on organise cette cohabitation. Là, il ne semble pas qu'elle devra être à l'arrêt pendant tous les Jeux. Peut-être qu'elle aura des périodes de restriction d'utilisation, mais pas spécifiquement pendant les Jeux. Après, il y a si vous allez sur ce sujet de la cimenterie du 15e de la Farge, elle va se transformer radicalement, et c'était absolument nécessaire. Et ces travaux-là seront menés avant. Ils vont commencer, me semble-t-il, avant les Jeux. Ils continueront peut-être après. Mais voilà, évidemment, ça n'impactera en rien l'organisation des Jeux. Sur votre première question, que vous allez me répéter parce que je l'ai oublié. Oui, sur le Trocadéro. Oui. Alors, le Trocadéro, tout à fait. Ben, là, effectivement, nous, on a un projet. On souhaite amorcer un certain nombre de travaux avant les Jeux. On a besoin des autorisations du préfet. Voilà, effectivement, le précédent préfet était plutôt bloquant sur le sujet, si je cherchais le bon mot. Voilà, on espère maintenant que les choses vont pouvoir se développer pour qu'on puisse commencer la phase de travaux qui était prévue avant les Jeux et qui pourra se terminer évidemment après les Jeux, mais tout ça est pris au regard de ces contraintes et sera adapté à ça.
Voilà ce qu'a dit donc Pierre Abadan.
Il est dans le ton, environnement, puis également la place des femmes, les athlètes femmes, parité totale dans les engagés de ces JO 2024. C'est vraiment un geste fort dont le CIO sera tout à fait sensible.
Voilà, alors il y aura 9 communes d'Île-de-France qui seront traversées. Paris, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray, Versailles, Viroflay, Chaville, Meudon et ici les Moulineaux. Et puis, ça sera un dénivelé positif de 436 mètres et négatif de 438 mètres avec une inclinaison de la route de 13,5. C'est-à-dire qu'on va prendre une partie du traditionnel Paris-Versailles et ça partira donc devant l'hôtel de ville pour arriver esplanade des Invalides. Hein. Voilà. On fera un retour par Versailles pour la boucle retour. C'est vrai que ça va être un parcours inédit et exigeant.
Absolument, absolument. Ça fera découvrir également les richesses, les beautés, les beautés également des régions et des villes traversées. Mais surtout, il y aura 20 024 participants, c'est énorme. Et donc là, c'est un geste fort, un signe fort également. Et je pense qu'on n'aura jamais vu un marathon avec autant de participants. Voilà, donc c'est vraiment un moment
fort. Parce
que
le grand public pourra courir
absolument,
avec les champions.
Absolument.
Hein, bon, faudra obtenir ces qualifications.
Voilà, il y aura des jeux, effectivement, qui permettront de marquer des points, puis ensuite de faire un tirage au sort pour identifier l'ensemble des participants. participants qui seront comme les athlètes qui seront sur le même parcours de 42 km 195.
Eh ben justement, on va en parler. On a interviewé avec l'ensemble de nos confrères et consoeurs Johan Durand, donc un des membres de l'équipe de France de marathon. Et pour Johan, naturellement, c'est une grande première que ce marathon 2024.
Des marathons comme ça, il n'y en a jamais eu. Moi, j'ai discuté avec un statisticien qui tient à jour un carnet de tous les grands championnats et tout ça. Même au JO d'Athènes en 2004, avec Athènes, qui a même une ville vallonnée, il n'y avait pas autant. Et donc, c'est atypique, ça ne s'est jamais vu. Peut-être que ça se refera même jamais. Mais en tout cas, voilà, Paris ça va être la beauté de ce marathon-là. C'est que certainement, on ne le reverra jamais. Donc, c'est quelque chose de chouette. Et oui, bah, il faudra certainement préparer des courses un peu plus vallonnées. Pas des courses en montagne, mais des trucs pour se préparer à cette difficulté-là, ouais.
Johan, quand commence la période de qualification et toi, est-ce que tu as déjà choisi un marathon qualificatif? Est-ce que tu as essayé de le faire le plus tôt possible pour être soulagé de cette pression?
Le marathon, le début de période pour se qualifier pour les Jeux Olympiques va démarrer le 1er janvier 2023, normalement jusqu'au mois d'avril 2024. Donc on va avoir 14 mois pour se qualifier. Mais oui, l'idéal, c'est quand même de faire un gros chrono d'entrée pour prendre plus ou moins de l'avance sur ses concurrents et après pouvoir être un peu plus tranquille pour préparer ce marathon, parce que comme je l'ai dit, ça va être un marathon complètement différent et il faudra se préparer de façon différente. Ouais.
Est-ce que tu as déjà une idée du marathon que tu vas courir? Je sais pas encore.
Certainement le marathon peut-être de Paris en avril, je sais pas. Moi j'aime bien le marathon de Paris, mais le vrai, c'est celui qu'on fait d'habitude à Vincennes, Boulogne, et qui passe le long des quais de Seine. Et la seule difficulté, c'est les quais de Seine avec le pont de... J'ai perdu le nom.
Le souterrain des Tuileries,
voilà. Et c'est, du coup, ça paraîtra rien quand on ira faire la Côte des Gardes. Ouais, ça sera pas pareil.
Ça remet les compteurs à zéro. Vous disiez, Kipchoge, voilà, on a tout fait pour pas qu'il gagne. Finalement, les favoris vont pouvoir s'effondrer autant que vous.
Ben, je l'ai un peu dit tout à l'heure, ouais, c'est-à-dire que ce marathon-là, ça va être compliqué de pouvoir donner un favori ou quelqu'un, parce que il est tellement atypique, il est tellement difficile que quelqu'un qui court vite sur un marathon plat ne sera pas forcément quelqu'un qui court vite sur un marathon avec autant de dénivelé. Il faudra bien gérer sa course surtout, parce que quand on va être dans le dur, quand on va commencer à souffrir, si on est parti trop vite, sur un marathon plat, on peut un peu limiter la casse et se refaire la cerise. Et là, ça ne sera pas du tout le cas. Si on est dans le dur et si on est KO, bah, avec le dénivelé qu'il y a et la difficulté qu'il y a, bah, c'est terminé pour nous. Donc, on n'aura pas beaucoup de... Disons que j'aime bien employer cette expression-là. On a quelques cartouches dans le barillet quand on part sur un marathon. Et si on les utilise sur les premiers kilomètres qu'on part trop vite, eh ben, on se retrouve sans rien et ça sera compliqué. Ouais.
Excusez l'expression, mais il a quand même de la gueule ce marathon, entre l'histoire, les monuments, enfin tout, il a tout pour lui.
Exactement, ouais. C'est pour ça qu'il est merveilleux, parce que quelque part, voilà, il y a le côté historique de l'histoire et voilà, il fallait sortir de Paris et aller à Versailles, c'est chouette. Comme on l'a dit, c'est des jeux. On veut être un peu novateur dans certains trucs et là, pour le coup, le fait de faire un marathon pour tous, de l'ouvrir à tout le monde, ça c'est vraiment chouette et c'est vraiment une superbe idée, parce que en plus le marathon, c'est vraiment l'épreuve populaire par excellence et qui rassemble et que tout le monde peut faire. Tout le monde se lance ce genre de défi et en plus aller sur un parcours comme ça où on sort d'une boucle en centre-ville, où on tourne entre Tour Eiffel et Champs-Élysées, bah voilà, là on part, on fait des côtes, on fait des descentes, on va à Versailles et on revient, et voilà, c'est l'histoire de France qu'on revisite comme ils l'ont bien présenté, et ça va être kiffant pour les coureurs, et je pense que ça va être un marathon chouette à faire, et comme on l'a dit, on le refera jamais, donc faudra kiffer ce marathon-là, et même s'il sera dur, même si on maudira un peu les organisateurs le soir de la course et la semaine après la course, ben, quand on regardera en arrière et on a dit « ouais, j'ai fait le marathon des Jeux et ce sera l'unique », ben, on sera fiers de soi. Ouais.
Voilà, ben, il résume tout, hein, Johan Durand, puis imaginez qu'on ait un Français champion olympique de marathon ou une Française championne olympique, Jean-Pierre.
Pourquoi pas, on peut rêver, ce sera difficile, mais on peut rêver.
Alors, le mot de la fin maintenant concernant cette journée du marathon qu'on avait vécu le 5 octobre dernier à l'Hôtel de Ville de Paris, eh bien naturellement, c'est le patron de Paris 2024, Tony Estanguet, et lui, il était particulièrement ravi qu'on présente donc un tel marathon.
Pour moi, ce marathon, il sera unique à plusieurs titres. D'abord, il sera très spectaculaire. C'est important quand même de faire rêver. On va être regardé par des millions, peut-être des centaines de millions de personnes qui vont regarder cette épreuve mythique des Jeux. Et ils vont voir l'Opéra de Paris, ils vont voir le Louvre, ils vont voir la Tour Eiffel, ils vont voir le Château de Versailles. Donc, c'est dans un décor très spectaculaire. Deuxièmement, c'est un marathon très populaire parce que pour la première fois de l'histoire, on va l'ouvrir à la participation du grand public. Et puis, dernièrement, effectivement, c'est un marathon qui raconte une histoire qui est en lien avec l'histoire de France et ce clin d'œil à la marche des femmes du 5 octobre 1789 qui ont permis la ratification de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour la création de la République française. C'est un moment majeur de l'histoire de France et que le marathon puisse être un hommage à ce fait marquant, c'est aussi dans notre volonté de parité, de ce défi de notre société, effectivement, de promouvoir la place des femmes dans la société.
Vous êtes content de vous, là, du parcours qui a été fait par vos équipes ?
Ouais, je suis particulièrement heureux. Je voudrais remercier bien évidemment les fédérations et notamment la Fédération internationale d'athlétisme qui est à la baguette pour valider notre proposition et qui a été vraiment très en soutien. C'était pas évident d'accepter que le marathon soit aussi difficile d'un point de vue sportif. On a bien conscience de ça. On a discuté aussi avec les athlètes qui vraiment je voudrais les remercier et les saluer parce qu'ils ont aussi montrer leur capacité d'adaptation et de flexibilité parce que pour eux c'est une difficulté supplémentaire, mais c'est un marathon où il y aura du suspense qui sera très spectaculaire et qui va aussi valoriser cette discipline.
Et la nouveauté, c'est, ça on le savait déjà, mais c'est confirmé que le public pourra y participer. Et il y a des dossards, voilà, en termes assez simples, comment vous pourrez expliquer, voilà, moi je suis auditeur, je veux savoir comment je vais récupérer un dossard.
Alors c'est assez simple, il faut s'inscrire au Club Paris 2024 pour gagner un des 20 024 dossards éligibles sur le marathon. Il y aura aussi 20 024 dossards pour un 10 km, donc beaucoup plus accessible dans Paris, également dans un décor absolument incroyable. Donc voilà, il faut avoir 20 ans au 31 décembre 2024 pour le marathon et 16 ans au 31 décembre 2024 pour le 10 km. C'est gratuit, il faut être membre du Club Paris 2024 et participer aux nombreux défis que l'on propose régulièrement, tous les mois quasiment, avec la Fédération française d'athlétisme. Il y a des dossards à gagner, donc connectez-vous à notre club, connectez-vous à notre application Marathon pour tous, pour faire partie des quelques chanceux, des quelques dizaines de milliers de personnes qui, pour la première fois, vont pouvoir vivre cette expérience olympique.
Oui, parce qu'il y aura des défis, des challenges qui ont déjà été organisés, parce qu'il y a déjà eu des 3000, je crois, dossards qui ont été distribués. Là aussi, comment vous expliqueriez qu'est-ce que c'est, parce que quand on entend, c'est quoi un défi sportif?
Alors, les défis sont très variés. Effectivement, on a permis à des gens de courir dans Paris un 10 km avec Eliud Kipchoge. C'est pas des défis sportifs. C'est pas la performance que l'on va privilégier, mais c'est vraiment le côté assidu de la pratique sportive, de participer aux défis proposés par Paris 2024 dans un bon état d'esprit. Et puis voilà, il faut avoir un peu de chance aussi parce qu'il y a pas mal de tirages au sort quand on participe à nos défis. Les nombreux participants, certains sont tirés au sort pour gagner un dossard. Donc voilà, on veut vraiment que ce soit dans un climat très festif, familial. Encore une fois, il n'y aura pas de classement sur ce marathon pour tous. C'est pas l'esprit, c'est vraiment accessible à toutes et tous.
Tony, le marathon qui est un sport populaire, maintenant fait la rouille vers l'ouest. Voilà cette Saint-Denis mis de côté, les quartiers populaires.
Alors on n'a pas du tout mis la Sainte-Saint-Denis de côté, il n'y avait aucun engagement à ce que la Sainte-Saint-Denis accueille ce marathon. La Sainte-Saint-Denis est au cœur du dispositif, elle va d'ailleurs accueillir l'ensemble des compétitions d'athlétisme au Stade de France, donc ça en fait l'un des territoires les plus pourvus en nombre de compétitions. Il y aura également des épreuves juste en face du Stade de France sur la natation, des épreuves d'escalade au Bourget. Donc beaucoup de compétitions auront lieu en Seine-Saint-Denis. Et là, effectivement, on a privilégié un marathon qui est connecté à l'histoire de France à travers cet hommage à la marche des femmes.
On a hâte d'y être, hein, Jean-Pierre. Il n'y a pas d'autre mot. Hein.
Ça va être grandiose avec les millions de téléspectateurs qui vont découvrir ces beaux monuments parisiens, qui vont découvrir Versailles, dont on parle beaucoup et qui fait envie au monde entier. Je crois que ça va être un bon moment et d'histoire et de sport.
Alors, très bien. Alors, ça, c'était pour la présentation donc, du marathon le 5 octobre. Et puis, quelques jours après, ça va vous, naturellement, ça va vous interpeller, hein, vous, le président du comité français pour le fair play, vous qui luttez contre les discriminations. On a eu la journée paralympique qui a été aussi dense, aussi populaire que ce qu'on avait vécu pour la journée olympique de fin juin sur le parvis du Stade de France. Ça aussi, hein, c'est une de vos priorités, le handicap.
Absolument, on tient compte de toutes les situations. C'est le sport pour tous, quelle que soit la couleur, quels que soient les handicaps qu'on peut avoir. Je voudrais remercier aussi les deux fédérations, finalement, de paralympiques, hein, à savoir la fédération handisport avec sa présidente Guylaine Westerlinck et puis le sport adapté, dont on parle moins parce qu'il y a beaucoup moins d'athlètes engagés, avec Marc Truffaut, puis surtout Marie-Amélie Le Fur, qui est présidente du comité paralympique et sportif français, qui est une fille remarquable, ancienne championne paralympique également, à nombreuses reprises et qui manage tout ça de main de maître. Voilà, je crois qu'on va vivre également un grand moment de partage, où tout le monde aura le droit à faire quelque chose. Et d'ailleurs, le parcours dont vient de parler Tony Estanguet, les 10 km au centre-ville de Paris, vont être ouverts également aux athlètes paralympiques, au public paralympique qui souhaiterait s'y engager, moyennant les limites qui étaient évoquées tout à l'heure de tirage au sort des dossards. Mais là aussi, je crois qu'on vivra un bon moment de partage dans la capitale.
Oui, et puis on a vu que les paralympiques auront leur cérémonie donc d'ouverture qui partira de la Concorde et qui leur permettra de remonter l'avenue des Champs-Élysées. Hein.
Absolument, je crois que ce sera la première fois qu'on aura des cérémonies d'ouverture qui seront pas traditionnelles, avec la grande cérémonie sur la Seine, comme
sur
vous le savez, etc.
Ouais.
Et puis les Paralympiques également qui seront sur un espace très 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 mythique également de Paris. Voilà, donc deux exceptions à la tradition olympique, mais qui ont été acceptées vraiment par le CIO. Je crois que c'est important de le dire.
Alors, dans cette belle journée du 8 octobre qu'on a vécu à la Bastille, c'est vrai qu'on a senti qu'il y avait une seule et même équipe de France, olympique et paralympique, ça faisait vraiment un seul tout.
Ça aussi, c'est la première fois qu'on va vivre ça. Premier Jeux Olympiques où finalement tout le monde sera au même niveau. On l'a dit pour la parité, mais on l'a dit également pour Olympique, Paralympique. Finalement, c'est la fête de tout le sport, qu'il soit valide ou qu'il soit dans le monde adapté.
Alors justement, eh bien c'était aussi le sentiment d'une icône du sport français qui était présent à cette journée et pour qui c'était important d'être présent. C'est naturellement Florent Manaudou.
Bonjour Florent.
Bonjour.
Pourquoi c'était important d'être ici aujourd'hui à cette journée du...
C'était important parce que c'est une des premières vraies journées avant Paris 2024 et c'est la première journée paralympique de l'histoire aussi surtout, donc c'était important d'être ici. En plus il fait beau à Paris en octobre, c'est quand même agréable. Je pense que ça a amené énormément de monde et voilà, il y a toute la place de la Bastille qui est dédiée à ça aujourd'hui et c'est rare pour le sport paralympique, donc c'est important d'être ici.
Quel est votre programme aujourd'hui à vous ?
Je ne sais pas exactement, mais j'aime bien essayer un peu tous les sports. Alors j'ai déjà essayé pas mal de sports, basket-fauteuil, hand-fauteuil. J'ai jamais essayé le tennis encore, donc je vais essayer ça, mais j'ai hâte de découvrir encore plein de sports.
Ce qui est bien, c'est que c'est une seule et même équipe, cette équipe de France olympique et paralympique.
Alors pour nous, ça a toujours été un petit peu le cas. Peut-être pour le grand public, ça a toujours été un petit peu différent, mais on se voit, on se réunit de temps en temps sur différents events. C'est vrai que des events aussi grands comme aujourd'hui, c'est assez rare pour le grand public, donc on essaye de mixer l'équipe olympique et paralympique pour faire des jeux et du début des jeux, voilà, une équipe soudée.
Alors, avec le retard pour l'handisport, qu'est-ce que vous en pensez finalement? Vous pensez que cet événement, c'est assez important pour le propager, pour que ça se fasse plus connaître finalement?
Moi, je pense que c'est important de montrer aux gens le sport handisport. Parce que je pense qu'on a entre guillemets peur ou on ne sait pas trop comment se positionner quand on ne voit pas les choses. Et tant que les gens voient, les gens comprennent, discutent avec des sportifs valides ou des sportifs handisport, ils comprennent que voilà, c'est des sportifs comme les autres et que voilà, ils font des performances sportives comme les autres. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir des journées comme ça. Ouais.
Les regards changent, Florent.
Les regards changent petit à petit. Je pense que c'est mieux. En 2022 qu'en 2012 ou qu'en 92, etc. Donc c'est de mieux en mieux, c'est pas encore au niveau qu'on aimerait tous, mais voilà, une journée et une place de la Bastille dédiée au sport paralympique en 2022, c'était pas le cas il y a quelques années encore, donc c'est cool.
Et vous alors, 2 ans avant les Jeux, vous en êtes où ?
Bah, je m'entraîne comme la plupart des sportifs. Je fais des petits breaks de temps en temps pour venir à Paris et soutenir les copains et le sport paralympique. Mais ouais, il reste plus que 2 ans, donc il faut bosser.
Il n'est pas encore dedans quand même.
Comment ?
Vous n'êtes pas encore dedans ?
Bah, il reste 2 ans, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Non, c'est vraiment le début. Je pense que 2 ans, c'est vraiment le début du dernier compte à rebours. Donc, c'est depuis septembre, c'est à fond.
Voilà, c'est à fond. Je suis sûr qu'il va nous ramener une médaille. Il a été médaillé dans les 3 Olympiades. Je suis sûr que pour Paris 2024, Florent, il va nous ramener une médaille.
On le souhaite. Et voilà, et comme c'est en France, voilà, il va se transcender encore. Et je suis convaincu qu'on aura des belles médailles. Et en natation, qu'on reviendra au niveau qu'on avait à Londres, où on avait eu beaucoup, beaucoup de médailles, si vous vous en rappelez, en 2012.
Absolument. Alors, c'est vrai que c'est une seule et même équipe. On l'a vu, on l'a ressenti. On en reparlera. Et puis, les athlètes paralympiques sont des athlètes plein d'optimisme. C'est quand même incroyable cet optimisme de vie qu'ils ont.
Ça fait plaisir de voir les athlètes en e-sport parce qu'ils se défoncent, ils se démènent, ils sont souvent, c'est souvent des blessures liées à un accident grave, etc. Ouais. Et donc, remonter la pente comme ils le font, arriver aux performances qu'ils font et voir aujourd'hui la place également de la France au niveau en e-sport, que ce soit les sports d'été ou les sports d'hiver, je pense que cela fait plaisir et qu'il y a une véritable politique, stratégie venant des fédérations mais également de l'État pour aider ces sportifs à faire des performances à la hauteur de nos ambitions et finalement montrer que le handisport, c'est certes un handicap, mais on fait des grandes choses en étant handicapé.
Eh ben, on va entendre Alexis Enquincan qui a été le dernier champion paralympique de triathlon à Tokyo. Vous allez voir, c'est vraiment une bouffée d'optimisme à travers Alexis. Alexis, c'est un jour important aujourd'hui.
C'est ce jour. C'est vrai que là, c'est une première, la journée paralympique. On voit que ça, c'est vraiment une belle réussite. Les gens sont vraiment motivés, les athlètes sont présents. Paris 2024 a vraiment travaillé pour ça et le comité paralympique. Et franchement, on a la météo avec nous, c'est juste extraordinaire.
Est-ce qu'on peut dire que ça commence aujourd'hui véritablement ?
Je pense que ça commence aujourd'hui, effectivement. Voilà, c'est ce qu'on attendait tous. Je pense que le mouvement paralympique, il est en plein essor, il prend vraiment de l'ampleur. Et voilà, les athlètes, ils repoussent toujours les limites. Et du coup, aujourd'hui, vous, les médias, c'est aussi important que vous soyez là pour nous mettre en avant et que tous ensemble on aille gentiment mais sûrement vers Paris 2024.
Alors on a vu des champions olympiques être partie présente dans cette journée. On a le sentiment que c'est une seule et même équipe.
Oui, aujourd'hui c'est vrai que ce slogan équipe de France réunie, olympique, paralympique, je pense qu'on est tous solidaires, les athlètes entre nous, et on veut tous faire briller notre drapeau bleu, blanc, rouge. Donc, c'est de très bon augure, je pense, pour Paris.
Oui, alors, beaucoup de démonstrations, beaucoup d'ateliers aujourd'hui.
Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment faire découvrir le parasport en général. Il y a une méconnaissance aujourd'hui du monde de l'handicap en général, de la société. Et aujourd'hui, venir découvrir ce que c'est que de se mettre dans un fauteuil roulant, etc., de se mettre à par terre pour jouer au paravolée, etc. Oui, c'est super intéressant. Donc, les gens vont pouvoir vraiment se mettre dans notre peau et découvrir que le parasport, c'est pas si facile.
Oui, les regards changent quand même aujourd'hui, depuis quelques temps.
Oui, les regards changent grâce aux performances aussi. Je pense qu'aujourd'hui, le niveau paralympique, il est de plein essor. Les athlètes s'entraînent de plus en plus, deviennent de plus en plus professionnels dans leur pratique. Et donc, forcément, les performances sont de plus en plus impressionnantes. Et forcément, c'est plus spectaculaire et ça donne envie aux gens de regarder, quoi.
Et vous, vous y pensez jour par jour maintenant ?
Moi, c'est aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve d'être champion paralympique à Tokyo. Forcément que je rêve de gagner à Paris et vous pouvez compter sur moi. Tous les jours, je m'entraîne très très dur pour réussir cet objectif.
Et Alexis, pour l'une des premières fois aujourd'hui, le public va venir vous voir, vous découvrir. Il y a des gens qui viennent également d'ailleurs de province. Il y a des Normands comme vous qui sont là. On a eu un collège tout à l'heure avec nous. Ça, c'est important aussi de faire venir le public des quatre coins de la France, vous découvrir, partager des moments avec vous. Ça, c'est inédit également.
Oui, c'est inédit et c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut que les Français prennent conscience qu'on veut beaucoup de médailles à Paris 2024 et qu'on aura besoin du public pour nous pousser à aller chercher ces performances. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est bien que ça soit à Paris, mais c'est aussi bien que les provinciaux se déplacent et viennent partager avec nous cette journée extraordinaire.
Ça vous émeut tous ces moments, toutes ces choses qui surprenantes qui arrivent, parce que parfois il y a des moments plus durs et finalement l'espoir renaît à chaque fois.
Aujourd'hui c'est la carrière d'athlète c'est super, mais c'est vrai que le partage avec les gens ça vaut presque toutes les médailles aussi parce que c'est faire découvrir notre sport, c'est de faire découvrir ce qu'on pratique tous les jours et on est souvent un peu enfermé dans notre préparation et là sur des journées comme ça permet vraiment de, bah voilà, de faire profiter, de faire découvrir ce qu'on fait, donc c'est top.
Aujourd'hui, vous êtes là pour décrocher la médaille du cœur, c'est un peu ça.
Ouais, c'est un peu la médaille du cœur qu'on vient chercher aujourd'hui, effectivement.
Merci beaucoup, Alexis.
Et puis il fait beau, c'est tout un symbole.
Ah bah là, le soleil, vous avez vu, on est super bien, quoi. C'est top.
Un mot sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques Place de la Concorde, ça aussi, c'est un beau symbole pour vous?
Oui, alors voilà, c'est, je suis partagé parce que c'est sûr que c'est une superbe expérience. On aura l'occasion de voir. On n'a pas malheureusement la même cérémonie d'ouverture que les Olympiques parce que c'est sûr que ça aurait été sympa de pouvoir défiler sur la scène. Maintenant, voilà, c'est les spécificités qui font qu'on ne peut pas le faire et ça sera super déjà de le faire à la place de la Concorde et je suis sûr que ça sera une superbe fête.
Mais quand même une petite déception, on sent.
Une petite frustration, on va dire, mais voilà, c'est toujours pareil. Les choses avancent très bien, dans le bon sens, donc voilà, c'est très bien.
Merci Alexis. Voilà, merci à Alexis en quinquant. Quel peps, hein.
Tout à fait. Voilà, c'est impressionnant de voir l'énergie qu'il dépense, la volonté et vouloir gagner. Voilà, c'est vraiment magnifique. On a des beaux athlètes français.
Ouais. Champion paralympique de triathlon à Tokyo et je suis sûr qu'il va remettre ça à Paris. Alors tiens, une autre personne qui a aussi beaucoup de peps, elle a vu des messages très forts à Lima, c'est Anthony Nketa, médaille de bronze donc, en 2008 sur 400 mètres aux Jeux Paralympiques. Et vous allez voir, pour elle aussi, c'est une bien belle journée que cette journée paralympique.
Ouais, complètement, c'est une grosse belle journée pour nous aujourd'hui, le début de quelque chose qu'on va avoir chaque année. Donc oui, effectivement, là on voit qu'il y a un peu de monde et l'objectif c'est que chaque année il y ait de plus en plus de monde pour que effectivement notre mouvement soit plus connu et que bah, il y ait plus de personnes qui viennent faire des parasports et que le parasport soit plus connu aussi du grand public.
Est-ce que c'est aussi un moyen de peut-être de faire découvrir des sports et de susciter des vocations pour les champions de demain éventuellement, pour des jeunes en particulier?
Complètement, c'est vraiment... alors pour des champions oui, mais tout simplement pour une pratique plus importante du sport quand on est en situation de handicap. On sait que tout le monde ne sera pas champion paralympique ou championne paralympique, mais si on amène beaucoup plus de jeunes au sport, on aura tout gagné. Ouais, donc effectivement, on aimerait susciter des vocations ou en tout cas de l'intérêt lors de ces journées-là, ouais.
On voit que le regard change quand même aujourd'hui, Nantonine, à travers toute cette foule.
Oui, le regard change, mais il faut continuer. Il ne faut pas se dire, oui, ça y est, on a fait quelque chose, ça bouge. Il faut aller au bout, il faut gagner la course. Là, on a pris le départ. Maintenant, il faut construire la course et ensuite la gagner.
Et puis, une équipe de France unie, puisque les Olympiques sont là aussi.
Oui, alors effectivement, depuis le lancement de la candidature et maintenant, depuis qu'on sait qu'on a les Jeux, c'est vraiment une réelle volonté de se dire qu'on est tous athlètes et que, eh ben, on crée une seule et même équipe pour représenter la France. Donc c'est pour nous, c'est les athlètes valides qui viennent aujourd'hui ne viennent pas parce que c'est du paralympique spécifiquement, viennent parce qu'ils viennent voir des collègues sportifs.
C'était quand même important d'avoir une journée pour mieux mettre en valeur le paralympisme par rapport à la journée olympique où il n'y avait que peu d'activités réservées aux athlètes paralympiques.
Oui, complètement. C'est bien pour ça que cette journée-là, elle est créée. C'est pour justement, sur les Olis, on met l'accent sur les Jeux Olympiques avec des athlètes paralympiques qui viennent. Sur les Jeux Paralympiques, on met l'accent sur les sports paralympiques et sur les parasports avec des athlètes olympiques qui viennent.
C'est une journée aussi importante pour mettre en avant les difficultés des para-athlètes parce qu'elles sont encore nombreuses, ces difficultés, sur tous les plans.
Oui, alors c'est une journée sur laquelle effectivement on sait qu'on a encore des difficultés et le but c'est effectivement, comme vous le dites, c'est d'en parler et de trouver des solutions derrière.
Au-delà d'événements comme celui-là, comment pendant l'année vous pouvez communiquer justement, sensibiliser le grand public? Est-ce qu'il y a des choses que vous essayez de faire pour
attirer personnellement
les gens?
Ouais, alors c'est vrai qu'il y a aussi la journée, la semaine olympique et paralympique qui a lieu tous les ans depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Donc ça aussi c'est une semaine sur laquelle il y a l'accent qui est mis sur les Jeux Olympiques et sur les Jeux Paralympiques, donc forcément sur les parasports. Et puis après au quotidien, c'est les performances qu'on peut faire, c'est les rencontres qu'on peut faire aussi quand on va dans les écoles, parce que beaucoup d'athlètes se déplacent dans les écoles pour aller parler de son sport et des parasports. Et puis c'est aussi tout ce qu'on peut faire à l'école, par exemple mettre du basket fauteuil à l'école, mettre du volley pourquoi pas assis à l'école, tout ça va contribuer justement à augmenter et faire rayonner un peu plus les parasports.
Si on se projette un peu par exemple sur l'année prochaine, il y a les championnats du monde de para-athlétisme à Paris, j'imagine que c'est aussi un tremplin qui est attendu.
Merci de me mettre un peu plus la pression pour me dire que c'est bientôt. Non, effectivement, on sait que il y a plusieurs choses qui sont intéressantes au fait d'avoir les championnats du monde à Paris l'année prochaine. Pour le grand public, c'est l'occasion donnée de venir dans un beau stade qui est le stade Charletti et de voir vraiment le gratin, on va dire, de l'athlétisme mondial, du para-athlétisme mondial. Et puis pour nous, c'est une belle répétition aussi avant les Jeux de Paris. Donc il y a un double intérêt effectivement à avoir les Jeux. Et on espère vraiment que la population se mobilisera et que les médias aussi se mobiliseront pour vraiment donner l'ampleur qu'il faut au championnat du monde de para-athlétisme en juillet.
Est-ce que les Jeux paralympiques de Londres en 2012 restent vraiment la référence de la réussite en matière de Jeux paralympiques et c'est ce qu'il faudrait faire pour Paris dans 2 ans?
Alors ça reste la référence, mais je suis sûre que Paris, on va monter sur le podium.
Ça avait fait progresser beaucoup de choses, le paralympisme, les Jeux paralympiques à Londres en 2012.
Oui, effectivement, ça avait bien fait avancer les choses pour pas mal de raisons, parce qu'il y a eu une grosse communication en amont, que la population connaissait vraiment ces athlètes paralympiques au même titre qu'ils connaissaient ces athlètes olympiques. Et là, c'est un peu ce qu'on essaie de reproduire aussi, c'est de venir à la rencontre de la population pour qu'eux nous connaissent, parce qu'on sait qu'on vient voir et on s'intéresse à ce qu'on connaît mieux. Voilà.
Antonine, vous êtes déjà dedans, parce qu'on se rappelle des mots très forts que vous aviez eus à Lima.
Oui, moi je suis dedans depuis bien longtemps, hein. J'étais dedans même pour la candidature de 2012, donc c'est vrai qu'on a fait de belles choses et on va continuer, j'en suis sûre.
J'avais juste une dernière question sur la médiatisation. Je discutais avec Damien Seguin qui expliquait que pour lui, le parasport suivait un peu la même courbe d'évolution que le sport au féminin en termes de médiatisation, de valorisation des performances. Est-ce que tu partageais aussi un peu ce constat?
Complètement, c'est exactement ça. On a été pendant longtemps considéré, je pense, comme le parasport, pardon, comme un sport mineur, donc avec la médiatisation d'un sport mineur. Et aujourd'hui, on voit que nos performances sont reconnues. Nous, athlètes, on est reconnus. Notre travail est reconnu. Notre mouvement est reconnu. Et c'est vrai que, effectivement, on suit la même courbe et on a bon espoir pour que ça avance bien.
Merci en tout cas. Voilà, merci à Anne-Antonine Kata. Vous êtes d'accord avec ça?
Absolument. Je
les
pense
Paralympiques
que...
et puis oui. Les conditions des femmes au niveau du sport, c'est le même combat?
Le même combat. Et aujourd'hui, les fédérations handisport et fédérations sport adaptées peuvent s'appuyer sur les fédérations olympiques avec les valides. Et justement, ça leur permet de progresser plus vite parce qu'ils sont au contact du haut niveau. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui sont transposables. Et là, je crois que c'est un grand mouvement qui a eu lieu avec ce rapprochement entre les fédérations non olympiques, enfin, les fédérations handisport, pardon, et les fédérations olympiques valides. Voilà, donc un gros travail est fait. Et je voudrais remercier et féliciter Nantenin Kaïta parce que c'est une fille remarquable.
Ah oui.
Je l'avais,
elle aussi, c'est le PEP, ça.
Voilà, je l'avais intégrée dans le jury Sentez-vous Sport que je présidais à une certaine époque. Vraiment, elle est admirable, intelligente et tout. Et bon, sa déficience visuelle ne l'a pas empêchée quand même d'être championne du monde, 400 mètres, vice-championne ou médaille de bronze paralympique également aux Jeux.
Elle avait au jeu.
Voilà. Donc finalement, 2008, une fille, une belle image pour le sport français et le sport adapté et le sport handisport.
Allez, autre champion qui était là, qui était présent. Alors lui, il a mis sa carrière un petit peu en stand-by, mais enfin, il veut quand même à sa façon œuvrer. On l'a rencontré, c'est Johan Diniz, le marcheur. Bon, ça lui a jamais trop réussi, les Jeux, mais enfin, c'est pas bien grave. Hein. Lui, il était aussi content d'être là et il trouvait que c'était une bien belle journée pour le paralympisme français. Johan Diniz, c'est une bien belle journée aujourd'hui hein, à la Bastille.
Oui, bien sûr, une super journée. Et puis, un beau mélange entre des sportifs valides, des sportifs paralympiques. Et puis, tout le monde est là pour découvrir les disciplines de chacun. Et puis, il y a un vrai partage.
Oui, je vous ai vu participer à plusieurs ateliers, y compris là, le paravolet. Là.
Ouais, le volet assis, c'est super, super sympa. Vraiment, il n'y a pas plus inclusif en fait, parce qu'il y a des. Voilà, c'est comme je disais, tout le monde peut jouer, tout le monde peut participer, puis c'est super convivial, quoi. Tout le monde se prend bien au jeu.
Et puis la force, Johan, c'est qu'on sent qu'il y a une seule équipe de France.
Bien sûr, il y a une seule et même équipe de France, c'est les mêmes jeux, donc tout le monde se supporte et tout le monde, chaque médaille, on supportera chaque athlète, et qu'il y ait une médaille ou pas une médaille, de toute façon, mais on sera derrière toute cette équipe de France olympique et paralympique.
Alors, il fait beau, on voit beaucoup de monde, comme lors de la journée olympique, on sent qu'on a envie d'avoir ces Jeux, hein. On les attend avec impatience.
Ouais, il y a de l'engouement, on est à un an et demi maintenant des Jeux olympiques, et il faut qu'il y ait cet engouement, qui s'amplifie encore avec des événements qui vont être aussi sur le territoire. Il y aura les championnats du monde de parathlétisme à Charletti l'année prochaine. On aura la Coupe du Monde de rugby, de para-rugby. Il y a les championnats d'Europe de volley aussi au mois de décembre. Donc il y a des épreuves aussi. Il y a les Global Games des sports adaptés qui auront lieu à Vichy. Donc tout ça, faut qu'il y ait du monde et faut qu'on aille aussi soutenir nos athlètes paralympiques pendant leur compétition.
Ouais, on sent qu'on en a besoin dans notre pays. Hein. Ça va fatalement fédérer.
Bien sûr, ça va fédérer. Moi, j'ai connu les Jeux Olympiques à Londres déjà en tant qu'athlète et on avait senti un vrai accélérateur en termes de public, déjà en termes de public, mais aussi en termes de structure, d'accueil, d'accessibilité, de pouvoir que nos athlètes paralympiques puissent aussi se déplacer dans de bonnes conditions, etc. Donc ça, c'est aussi des enjeux qui font partie du partenariat. Quoi.
Et vous allez continuer à être en quelque sorte un des parrains, à promotionner les Jeux jusqu'en juillet 2024.
Moi, je travaille pour un partenaire des Jeux Olympiques, donc forcément, nous, voilà, notre mission, c'est de pouvoir parler des Jeux et puis les ouvrir au plus grand nombre et les rendre accessibles à tous, quoi, voilà.
Sinon, le reste, on dort, on mange, on vit JO déjà
ouais, pour moi, non, mais maintenant, certainement pour les athlètes qui les préparent, oui, ça, oui, c'est
même
sûr.
Même 2 ans avant, hein, ça compte.
Ouais, bah, même 2 ans avant, je pense que là, ils préparent tous à fond Paris et ils sont tous à fond dans la préparation des Jeux, quoi.
Très bien, merci, Yohann.
Merci.
Voilà pour Yohann Diniz, hein, qui travaille pour une grande société Décathlon qu'on connaît maintenant, un peu partout. Autre grand champion qui était là, hein, et alors lui, il symbolise aussi l'hiver et l'été, c'est Martin Fourcade. Ah. Hein, il était présent dans cette journée et lui aussi naturellement a trouvé cette journée hyper sympa.
Une journée très sympa, plein d'activités, plein de sports à découvrir, plein d'athlètes à apprendre à connaître, parce que les Jeux paralympiques, ça commence aussi aujourd'hui. Je crois que c'est super important qu'il y ait une vraie dynamique autour des athlètes, auprès des sports, pour que les Français ne découvrent pas les Jeux paralympiques en septembre 2024, et des journées comme celle-là contribuent vraiment à cet engouement, à cette découverte. Et voilà, je crois que c'est un enjeu qui va bien au-delà de 15 jours de Jeux paralympiques en septembre, et c'est génial de voir le succès et la réussite d'une journée comme celle-là.
Oui, puis c'est ce qu'on a dit, c'est une seule et même équipe hein, de France.
Oui, c'est une seule et même équipe, c'est des athlètes valides, des athlètes paras, c'est bien souvent des objectifs qui sont communs, des sacrifices pour arriver au plus haut niveau qui se ressemblent. Donc il y a plein de parallèles et c'est bien normal de célébrer cette équipe de France aujourd'hui ici à la place de la Bastille.
Vous essayez au parabasket ? C'était compliqué ?
Alors le maniement du fauteuil, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et je prends beaucoup de plaisir à évoluer. Par contre, il n'y a pas de secret. Quand on n'est pas bon en basket sur ses pieds, on n'est pas bon en basket sur un fauteuil non plus.
Il y a une course après prévue, c'est ça ?
Il y a une course après prévue, bien sûr, ouais, la course pour attribuer les dossards pour le marathon pour tous. C'est une des volontés de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est d'ouvrir les Jeux au grand public, de sortir aussi les Jeux du stade et de permettre à tout le monde de s'essayer au marathon pour tous sur le même parcours que les athlètes. Le parcours a été dévoilé en début de semaine et ça va être un vrai défi pour les athlètes de haut niveau comme pour tous ceux qui voudront s'essayer au marathon, découvrir le marathon le même jour et sur le même parcours que les athlètes olympiques.
Votre carrière à une époque où le handisport était beaucoup moins développé, vous voyez vraiment la différence avec maintenant ?
Je vois clairement un vrai engouement sur ces Jeux de Paris pour le mouvement handisport. J'ai eu la chance de côtoyer très jeune dans ma carrière des athlètes paralympiques en stage à Font-Romeu, là où j'ai grandi. Les équipes de France paralympiques venaient s'entraîner tous les ans et ça a été un contact vraiment enrichissant auprès de ces athlètes. On a appris à les connaître, on a appris à découvrir leurs handicaps, on a appris à découvrir leur parcours de vie. Et c'est vrai que j'ai eu plaisir durant toute ma carrière à évoluer avec des athlètes comme Benjamin Dorvier qui ont porté aussi, comme Marie Baucher, qui ont porté le handicap et le mouvement paralympique au sommet. Donc c'est génial aujourd'hui sur ces Jeux de Paris de pouvoir mettre en valeur ce mouvement et pouvoir justement associer athlètes valides et paralympiques parce que c'est une seule et même équipe.
Et Martin, ces Jeux de Paris, c'est également une image de la France qu'on renvoie au monde entier. C'est l'occasion de prouver qu'on est capable de faire aussi bien qu'à Londres, par exemple, où il y a eu un réel engouement pour le sport.
Ouais, je crois que c'est bien sûr, c'est des Jeux qui feront rayonner la France. Ça sera des Jeux qui vont montrer notre beau pays au monde entier. Mais voilà, je crois que des journées comme celle-ci, ça montre que bien au-delà de l'image, ces Jeux sont importants pour l'acceptation du handicap, pour vivre tous ensemble dans une même société. Donc voilà, bien sûr qu'il y a un focus pendant 15 jours au mois d'août et 15 jours au mois de septembre sur les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Mais je crois que l'héritage de ces Jeux, il sera beaucoup plus immatériel, et c'est sur des journées comme celle-là qu'on commence à initier cette dynamique.
Et c'est le meilleur moyen aussi de casser les préjugés à l'avenir, même après Paris 2024.
Oui, bien sûr, cette notion d'héritage, cette notion d'acceptation, bah, c'est aussi en ayant découvert, en étant allé vers les autres et en ayant partagé des journées comme celle-là qu'on peut arriver à créer cette dynamique-là.
Moi, j'ai une petite question par rapport à la saison de biathlon qui arrive. Est-ce que vous avez vu vos collègues de l'équipe de France et quelles sont leurs attentes et leurs objectifs un petit peu ? Est-ce qu'on peut faire aussi bien que l'an dernier ?
C'est pas trop le thème de la journée, mais je vais répondre rapidement en disant que je les ai pas vus récemment, mais que c'est bien sûr une équipe qui est ambitieuse et des athlètes qui sont talentueux. Donc forcément, tout autre résultat que les premières places les décevra avant tout eux-mêmes. Voilà, je pense qu'ils sont motivés, ils sont ambitieux et c'est un bel hiver qui s'annonce.
Oui, et puis Martin, en plus de ce jeu, ouais, il faut que la France devienne un pays sportif, c'est aussi le but. Hein.
Voilà, clairement, sur des journées comme celle-là, placer le sport dans le quotidien des Français, montrer que quel que soit son parcours de vie, on peut accéder à la pratique sportive, de montrer qu'on soit parent ou adulte, le sport peut se partager, c'est bien sûr des valeurs qui nous tiennent à cœur à Paris 2024.
Merci Martin, et t'es énervé, même combat.
Voilà, Martin Fourcade. Hein. Un grand monsieur, oui, bien sûr, les sports d'hiver. Et aussi, je voudrais le saluer sa brillante élection à la commission des athlètes de haut niveau du Comité international olympique. Et donc, c'est également une référence. Et c'est une très bonne chose pour la France d'avoir un monsieur aussi costaud, aussi sympathique dans cette commission.
Allez, dernière interview. Et ben, vous allez voir, là aussi, c'est plein de peps. Hein. C'est Sandrine Martinet, la championne de para-judo. Mmh. Alors, elle a été médaille d'or en 2016. Elle a été médaille d'argent en 2004, 2008 et 2021. Et naturellement, pour elle, bah, elle va aussi finir sur un titre. Hein, et les Jeux, ça commence déjà. Bon, moi, Sandrine, ce sont des Jeux qui commencent aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est une petite répétition de ce qui va se passer à Paris en 2024. Donc, on est vraiment très, très heureux de cette belle journée ensoleillée avec beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, des personnes en situation de handicap, des gens qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui pour passer une belle journée de convivialité, de sport aussi. Aussi de domaine artistique, vu que je crois qu'il y a Fovoto qui est passé à faire un petit peu de danse. On avait Artus aussi qui, je crois, a encore quelques tatamis dans le dos, donc il faudra lui dire de les enlever. Donc voilà, une belle journée aujourd'hui, en tout cas ici à la place de la Bastille.
Et puis vous, on vous a vu faire plusieurs démonstrations, y compris devant la ministre.
Oui, on essaie de montrer notre sport, de montrer qu'on réalise tous ici, athlètes, des performances avant tout. Donc c'est une occasion rêvée de pouvoir échanger, partager, faire découvrir nos sports et découvrir les athlètes paralympiques.
Il y avait besoin, Sandrine, justement, il y avait un déficit à ce niveau-là, peut-être de notoriété.
Oui, tout à fait, je pense qu'il y a un déficit, même si on progresse et il y a une médiatisation qui augmente, notamment depuis les Jeux de Londres. Il y a encore du travail pour continuer de médiatiser ces sports et ces athlètes et permettre en fait aussi que tout le monde puisse avoir accès au sport. Voilà, nous on est sportifs de haut niveau, mais l'important aussi pour nous, c'est de permettre à toutes les personnes, d'ailleurs en situation de handicap ou pas, d'aller faire du sport pour toutes les belles valeurs que le sport porte. Et puis, nous, ça nous a tellement apporté que ça nous permet de redonner au sport tout ce que ça nous a apporté dans notre vie. Ça nous a fait grandir, ça nous a fait évoluer, ça nous a apporté plein de choses. Donc, on a envie qu'un maximum de gens puissent vivre ça.
Mais justement, au-delà de l'intérêt populaire que ça peut susciter, c'est aussi de montrer à des jeunes, peut-être en situation de handicap, qui peuvent. C'est ça aussi, c'est créer des.
Voilà, c'est créer des vocations, faire rêver à certains enfants qui sont en situation de handicap, leur montrer que c'est possible, qu'on peut faire du sport malgré le handicap, et que moi, ça m'a permis d'avoir une carrière extraordinaire et de rencontrer mon mari. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai deux enfants, j'ai une profession, je suis kiné. Et je suis athlète de haut niveau. C'est possible, on peut s'épanouir tout en étant en situation de handicap. Donc voilà, c'est important d'aller au contact de toutes ces personnes et de leur donner de l'espoir. Et on espère que derrière, ils iront s'inscrire dans des clubs et qu'ils pourront profiter de tout ça.
On a l'impression que le comité d'organisation a pris la dimension du Paralympique. C'est votre sentiment ou pas ?
Oui, je pense que là, on voit vraiment l'évolution. Et voilà, on essaie d'être une seule et même équipe. Voilà, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, il y a cette unité qui est en train de se créer. Et vraiment, Paris 2024, c'est un accélérateur, c'est un catalyseur de tout ça. Donc, c'est très bien et on en est très contents.
Au-delà d'événements ponctuels comme aujourd'hui, comment dans l'année vous pouvez un peu mobiliser les gens, les sensibiliser justement à la pratique hein.
Alors moi personnellement, on a des actions avec notre fédération, où on va à la rencontre des clubs, des régions. Donc là, ça nous permet d'être au contact des judokas. Et après, par exemple, moi vendredi, j'étais dans une école où j'ai fait 1h30 avec une classe de CE1. Et 1h30 avec une classe de CM1, CM2, où voilà, j'aurais fait découvrir ce que c'était de d'abord se retrouver en situation de handicap visuel, de savoir guider quelqu'un qui est en situation de handicap visuel, et après de faire une initiation au judo avec les bandeaux. Donc voilà, c'était une très bonne journée. Donc j'essaie, que ce soit à travers les collectivités, que ce soit à travers les entreprises, voilà, de sensibiliser les gens et de leur faire vivre une expérience qui, je l'espère, va un peu faire évoluer leur point de vue par rapport au handicap et de changer un petit peu notre société.
Est-ce que vous êtes confiante pour le niveau du paralympisme français en vue des JO ?
Bah oui, je suis confiante. On s'entraîne tous très dur. On essaie de nous donner les moyens d'eux. Donc oui, je suis assez confiante. Et puis de toute façon, il faut être confiante dans tous les cas. Moi, je suis très positive. J'essaie de l'être tout le temps dans ma vie. Voilà, et de toujours essayer d'avancer, d'avoir des nouveaux défis. Et donc, j'espère que... Et ce sera, c'est même pas j'espère, c'est ce sera un événement incroyable où vous verrez de merveilleuses et très très belles performances de haut niveau.
Voilà, il ne pouvait pas y avoir meilleur mot de fin.
Effectivement, belle énergie, para-judo, vraiment, c'est bien. On a des judokas très forts, mais dans le paralympique, c'est bien aussi d'avoir des judokas comme Sandrine, voilà, qui relèvent la tête et qui ont envie de faire un beau résultat à Paris.
Voilà, en tout cas, ça sera du 28 août au 8 septembre 2024, c'est ça. Mais naturellement, on aura l'occasion d'en reparler. Allez, Stromae invaincu, c'est la deuxième pause musicale, et ensuite, on continue sur donc les valeurs olympiques à travers toutes vos actions au sein du comité français pour le fair play.
Plus de victoires que de défaites. Ouh, t'en as remporté plus d'un. Tu crois que tu vas me la mettre? Même pas en rêve. Espèce de petite putain. 3 balles en pleine tête. Une pour ma grand-mère, mon grand-père et une pour mon cousin. T'as pas gagné la guerre, juste une barrette. Petit fantassin. Ouh. Gauche, droite, droite, gauche. Front kick, balayette, des penalty. Pour 1 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Sans toi c'est déjà ça de prix. Ouais j'ai payé le prix. Et j'ai du mal à l'écrire. Et du mal à le dire, mais m'affaiblit. Debout, jusqu'au dernier cri. Ouh, putain de maladie. Hey, oh yeah. Tant que je suis en vie, je suis invaincu. Hey, oh yeah. Hey, oh yeah. Toujours invaincu. Hey, we'll be right back.
Voilà, donc cette riche émission, bah, vous pourrez naturellement la retrouver en podcast, hein, comme toutes nos émissions. Puis je sais qu'il y a même des émissions qui sont rediffusées en semaine. Alors Jean-Pierre, j'ai dit, on va prolonger hein, toutes ces valeurs olympiques et tous ces messages forts qu'on a entendus à travers donc, les interviews qu'on a ramenées sur le marathon 2024, mais aussi sur cette journée paralympique, par vos différentes actions. Et vous l'avez dit, hein, vous intervenez sur tout ce qui peut, donc j'allais dire, empêcher les dérives du sport, c'est un peu ça, hein. C'est le but de votre association. Mmh.
Hein. C'est la raison pour laquelle on a deux moments forts de l'année. On a un colloque, un séminaire qu'on organise une fois par an sur un thème particulier. Le dernier, c'était arbitrage, victime ou source de violence pour l'interrogation. Les d'avant, c'était violence, incivilité, radicalisation, un sujet également majeur aujourd'hui qui inquiète beaucoup le mouvement sportif. Ça, c'est le premier gros événement.
C'est des colloques qui durent combien de temps ?
Ça dure, ça dure une journée complète.
D'accord, et c'est à la maison du
avec
sport.
Avec quatre tables rondes, deux tables rondes le matin, de table ronde l'après-midi, animé par des journalistes très spécialisés, donc, voilà, avec des intervenants de très haut niveau. Mm-hmm. Voilà, donc je pense que là, on marque des points, et puis ces documents sont diffusés très largement à nos membres, mais au-delà de nos membres, et sont accessibles sur notre plateforme, notre site internet également, qui est ouvert à tous, et où les membres qui souhaitent nous rejoindre peuvent s'inscrire pour nous aider à être plus forts demain.
C'est ça, vous recrutez, il faut le dire, hein, s'il y en a qui voudraient se reconnaître dans vos valeurs.
Alors, on a justement aujourd'hui à peu près 400 membres, dont beaucoup de fédérations, beaucoup de cross et de cross, et ce qu'on aimerait, c'est aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, un sport sans violence intéresse forcément beaucoup de monde. Et donc, on voudrait créer une nouvelle licence, enfin une nouvelle licence, une nouvelle possibilité d'être membre, avec une adhésion de soutien à 10 euros, je le dis ici clairement, 10 euros pour aider justement notre mouvement à se développer, et puis rayonner partout dans toute la France. La violence est tellement aujourd'hui présente partout, malheureusement, qu'il faut qu'on se réunisse, qu'on s'assemble, et qu'on essaie de combattre toutes ces choses qui dénaturent le sport, qui modifie l'image du sport, et c'est pas ça que l'on veut. On veut un sport propre, un sport sain, un sport respectueux. Donc voilà, ces séminaires sont là pour ça.
Discrimination
également.
Telle qu'elle soit. Hein.
Absolument.
Telle qu'elle soit. Hein.
Et même la radicalisation aujourd'hui, on a des difficultés dans certains clubs qui ont du mal à gérer justement ces situations, avec des jeunes qui arrivent dans une certaine condition, avec, j'en dirai pas plus, vous savez de quoi je veux parler.
Ouais. Et il y a d'autres thèmes qui vont être abordés dans les prochains mois.
Alors, on va se rapprocher de l'olympisme, on va faire quelque chose sur les valeurs de l'olympisme en liaison avec le COJO Paris 2024, pour que l'année prochaine, on puisse faire justement un grand moment. Et puis, également, une chose importante, c'est qu'on a été retenu par l'Europe pour un projet Erasmus. Et actuellement, on est retenu pour un projet pour création d'un guide d'application de l'éthique et du respect dans le sport. Ça s'appelle le GRES, guide de recommandation pour l'éthique et l'intégrité dans le sport. Voilà, donc on espère que cette action-là, forte, va rayonner dans toute l'Europe et que, bien sûr, en France aussi, tout le monde se l'approprie, ce guide. Il est fait en liaison étroite avec la Fédération d'athlétisme dont on parlait tout à l'heure, avec sa commission dirigée par Michel Samper. Et donc, on fait un énorme travail là pour essayer de créer ce guide européen.
Oui. Alors, vous avez aussi le code du sportif au service de la paix et le code du sportif et l'olympisme.
Alors voilà, ça c'est des thèmes forts. On veut relier en permanence nos valeurs qu'on défend et les valeurs de l'olympisme, comme on le disait au début de l'interview. Excellence, amitié, respect. Donc on voudrait que toutes ces valeurs soient répandues partout. Et on a même une quatrième valeur, puisque Thomas Barthes, dans l'un de ses discours assez récents l'année passée, a dit les quatre valeurs de l'olympisme, c'est excellence, amitié, respect, c'est fair play. Voilà, ouais. Même le président du CIO a mis en avant le fair play. Il faut savoir qu'il y a une commission internationale du fair play également, qui est membre du CIO et qui est dirigée par Kenno Kamuti, que certains connaissent un peu, que c'est un ancien escrimeur, champion olympique, très très connu. Voilà, donc on est vraiment intégré au sein du mouvement olympique tout à fait naturellement.
Oui, alors, colloque, séminaire, ce sont vos principales actions.
Alors, la deuxième grosse action, c'est ce qu'on appelle les Iris du sport.
Oui.
Alors, les Iris, c'est
bien
le nom
connu,
d'une déesse ailée qui descendait de la montagne pour faire le bien également sur le terrain. Et donc, ces Iris du sport, on en est à peut-être la 30e édition actuellement. Et donc, l'objectif, c'est de mettre à l'honneur des sportifs, mais aussi des dirigeants, des arbitres, des journalistes qui ont eu une carrière fair play où finalement ils ont mis en avant en permanence cette ces gestes de fair-play tout au long de leur carrière. L'année passée, on honorait un sportif, pas forcément un sportif de haut niveau, mais quelqu'un qui dirige un grand événement sportif, le Tour de France.
Oui, et donc,
voilà, Christian Prudhomme était là, on l'honorait, il était vraiment très heureux, il a vraiment apprécié. Et je lui ai remis d'ailleurs cette année sur une étape du contre-la-montre du Tour de France, c'était la Capelle-Marival, une coupe au moment du départ. Voilà. Ouais. Et c'est très sympa de sa part d'avoir accepté ce petit geste. J'espère qu'il sera présent aux Iris de cette année, donc qui ont lieu le 1er décembre prochain.
Alors, on sera en plein mondial, mais il y a quand même des Iris, il faut y aller, il faut venir.
Il faut venir, il faut venir.
On sera là, puis ce qui est bien, vous l'avez dit Jean-Pierre, c'est que ça réunit tout le monde, aussi bien qu'on soit sportif amateur comme sportif de haut niveau. Hein.
Et surtout, il y a tellement de choses négatives aujourd'hui que pour une fois, on montre des belles choses, des belles carrières, et on va honorer cette année, c'est pas un secret, mais Romain Bardet, qui lors du Liège-Bastogne-Liège a arrêté son vélo pour aller secourir Julien Lafilippe qui était tombé dans un fossé en dessous, pour l'aider justement, le soutenir et l'aider à partir au détriment de sa compétition et de son classement. Voilà, donc on va l'honorer parce que ça, c'est des gestes forts qui méritent d'être connus et de valoriser.
On peut être sportif de haut niveau et encore avoir des gestes de fair play. Hein. La compétition, ça mène pas tout.
Hein. Absolument. On va honorer aussi Boris Neveu, champion du monde, canoë-kayak cette année, parce que vraiment, il a une carrière fair play. C'est pas terminé. Il sera bien sûr aux prochains Jeux Olympiques, mais il a été champion du monde, deux fois champion olympique. Et donc, on va l'honorer. On va honorer aussi quelqu'un que tout le monde connaît pour tout ce qu'il a fait pour le sport. Il était présent chaque année quasiment aux Iris. C'est Denis Masseglia, le président du comité olympique. Je crois qu'il méritait bien ça par rapport à sa carrière fair play. On aura aussi deux filles peut-être moins connues qui sont arbitres de haut niveau au niveau olympique. C'est Charlotte et Julie Bonaventura dans le handball. Très, très connues. Et donc, on va les honorer parce que vraiment, c'est deux filles fair play. On va aussi honorer d'autres personnalités comme... on a cité Boris Neveu, on a cité Romain Barnet. On va citer également Richard Dacoury, très connu.
Pareil, grand monsieur du basket.
Il aura d'ailleurs le prix spécial du jury, le prix Alain Calma. Richard Dacoury, finalement, c'est l'expression même du fair-play dans toute sa carrière. Tout ça pour vous dire qu'on aura 18 récipiendaires d'un prix. Et donc, on est très heureux. Et on aura finalement la chaîne aussi, je ne dois pas faire de publicité, mais Sport en France va retransmettre cette cérémonie. Absolument. Ouais. Donc on aura trois petits films qui vont être mis ensuite sur les réseaux sociaux. Un film de 3 minutes, un film de 10 minutes et un film de 25 minutes. Voilà, donc tout ça c'est pour la notoriété et montrer que tout ça c'est bien et qu'il n'y a pas que des choses négatives dans le sport, il y a aussi des choses positives.
Bien sûr. Donc ça sera le 1er décembre,
à partir de 11h. À partir de 10h30.
D'accord, à la Maison des Sports.
À la Maison des Sports, dans l'amphi.
À Paris, parce que c'est votre siège, c'est le siège de votre association, faut le dire.
Non, on a un petit peu déplacé notre siège parce qu'il y avait un problème de surface au sein du CNESF par rapport à l'extension. Oui. L'ensemble des missions, donc on s'est déplacé Porte d'Orléans et le CNESF nous a logé Porte d'Orléans dans des beaux locaux tout à fait sympathiques.
D'accord, on va quand même parler de l'équipe qui bosse avec vous, Jean-Pierre.
Oui.
Combien de personnes?
Alors on a un bureau, un conseil d'administration de 30 personnes, quasiment à parité, 14 femmes et 16 hommes, et on a un bureau totalement à parité. Donc on a anticipé la fameuse loi qui va obliger la parité à partir de 2024. Mais on a surtout un secrétaire général très important, qui s'appelle Gérard Tugas, qui est dans le rugby. Il vient d'être élu à la part et c'est lui qui va gérer maintenant, qui va être membre également du comité directeur de la Fédération française de rugby. Donc c'est une belle image. Et puis il s'occupait également du challenge jeune de rugby, les moins de 16 ans jusqu'à maintenant. Donc vraiment un monsieur très bien, très, très efficace, qui connaît le sport. On a aussi un secrétaire général qui s'appelle Jean-Claude Andrieux, qui a toujours été là, qui est l'homme de situation, et qui est la personne qui nous aide finalement à réussir nos événements. Voilà, très, très, très efficace. Et puis également, on a un trésorier, parce qu'il faut un trésorier. Gérard Vincent également, très, très marqué par le rugby. Président du club de Sainte-Geneviève-les-Bois, etc., qui aujourd'hui est en retraite et qui a apporté beaucoup sa contribution. Et puis on a tout le conseil d'administration qui est là pour nous aider dans toutes nos opérations et on en est très fiers.
Alors comment on décroche un prix du fair play? On est proposé?
Alors, on envoie un dossier de candidature à toutes les fédérations, oui. à tous les membres du comité du Fair Play. Et c'est eux qui remplissent ce dossier, qui présentent les gens qui le souhaitent, personnes qui le souhaitent. Et nous, on a un jury derrière, composé de 8 personnes, qui décident en fonction des dossiers si ça correspond bien aux valeurs que l'on souhaite. On est de temps en temps obligé d'en refuser parce que le prix du fair play, ce n'est pas un prix de consolation, ce n'est pas un prix parce qu'on a été vraiment fervent défenseur du sport dans sa carrière. C'est parce qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel tout au long de sa carrière. Et malheureusement, on est obligé de refuser à certaines personnes qui, par copinage ou autre, peuvent être proposées. Nous, ce n'est pas notre volonté. Des bénévoles qui ont donné beaucoup pour le sport, ben il y en a 3500 en France, des bénévoles. Et donc, voilà, ce n'est pas ceux-là qu'on souhaite honorer, c'est ceux qui ont vraiment marqué par leur carrière cet esprit fair play, voilà, de bienveillance, de respect des valeurs du sport, ou des gestes exceptionnels, comme celui qu'on vient d'évoquer avec Romain Bardet.
Oui, oui. Et puis c'est vrai que parmi les sportives et sportifs de haut niveau, il y a eu du beau monde hein, depuis la création de vos trophées. Hein.
On a regardé sur les 20 dernières années, il y a eu 180 athlètes de haut niveau, remarquables, qui ont été honorés. Et certains ont même donné, certains ont même donné un nom à nos prix, comme Coppa, comme André Darrigade, comme
Aimé Jacquet, Jomazo,
etc. Ouais. Donc on a vraiment une belle brochette de champions. Et j'aurais souhaité créer le club des anciens lauréats. J'ai un petit peu de mal parce qu'on a du mal à contacter les sportifs et ils répondent difficilement. Voilà. Mais j'aurais bien aimé avoir ce club des lauréats pour être les ambassadeurs des valeurs qu'on défend et puis parrainer peut-être un nouvel arrivant des Iris. Voilà. Mm-hmm. Bon, c'est un appel que je lance.
C'est peut-être pas fini. Puis non. Dans la perspective de Paris 2024, absolument. Ça peut être une occasion. Quoi.
Absolument. Hein? Et là, on les a tous invités, les anciens lauréats, aux Iris du sport du 1er décembre. J'espère qu'on va remplir l'amphithéâtre de 300 places.
Très bien. Bon, en tout cas, on sera là, Jean-Pierre, nous le premier. Hein.
Merci beaucoup.
OK. Alors, on va avoir à bout tout à l'heure pour donc finir cette émission bien dense ce soir. Mais on salue aussi notre ami Valentin qui a aussi beaucoup de choses à nous dire. Ça va, Valentin ?
Ça va, très bien.
Alors, on va simplement faire un petit peu aussi le tour de l'actu. Et on va commencer par le volet. C'était la 7e journée. Paris, ça va pas très bien. Battu à domicile la semaine dernière par Tourcoing 3-2. Battu aussi à Nice 3-2. Et rebattu par Chaumont à domicile 3-1. Les Parisiens sont 9e avec 8 points sur 14 équipes. C'est pas une belle semaine pour le volet parisien qui a eu 3 défaites en une semaine.
Hein. Non. C'est plutôt compliqué. Oui. C'est un enchaînement en fait de mauvais matchs, de mauvaises performances. Et quand on regarde les rencontres, en fait, on comprend pourquoi ils sont dans cette situation-là. C'est qu'on sent qu'il y a de l'envie, qu'il y a envie de faire quelque chose, mais que ça aboutit pas. Et c'est les fins de rencontres et les jeux décisifs qui sont pas mis en place et qui sont pas bien organisés au bon moment. Et malheureusement, quand on n'est pas là au bon moment, ou dans les grands moments, on connaît des défaites. Et c'est dur parce que franchement, il y a du potentiel, il y a du niveau et ils pourraient faire beaucoup mieux avec l'effectif qu'ils ont. Et c'est dommage de les voir sombrer à ce niveau-là.
Elle ne va pas descendre quand même, cette équipe. Pour l'instant, 9e.
On l'espère pas, Franchement, il y a du bon. Comme je dis, dans le jeu, il y a vraiment du positif. Et j'espère franchement qu'ils vont réussir d'ici la fin de saison à se mettre en rythme et à trouver vraiment ce qui peut les aider à se maintenir. Et puis non, on ne veut pas les voir descendre, pas du tout.
Alors Jean-Pierre, c'est vrai qu'on a une chance, c'est que le 13e arrondissement, il y a des clubs importants, il y a le volley, il y a le basket, on va en parler avec Valentin, il y a le Paris Atlético sur lequel Abou est ce soir pour voir le match. C'est quand même...
Le stade Charletti.
Oui, Charletti qui n'est pas loin, il y a le CNOSF, vous avez été vice-président du CNOSF.
Effectivement, un arrondissement très sportif, j'ai eu l'occasion de rencontrer la vice-présidente en charge des sports du 13e arrondissement, on est prêt à faire des choses ensemble. Et le relais est pris par le comité olympique aujourd'hui pour voir comment on peut plus collaborer pour le sport. Donc effectivement, c'est un bel arrondissement.
Alors le basket, Valentin, donc tu y étais hier. Hein, on va quand même rappeler que la semaine dernière, Paris a été battu 75-66 par une ville de basket qui est donc Cholet. Mmh. Et puis hier, très belle victoire, assez nette, assez large, 104-88 face au Mans. C'est aussi une autre belle ville pour le basket, ce qui fait que Monaco, pour l'instant, est en tête avec 100%. Devant Boulogne, Levallois et Cholet avec 85,7%. Paris est 15e avec Le Portel et Portel, 25%. Juste devant Strasbourg, qui est dernier, avec 12,5%. C'est-à-dire qu'ils se sont donné un tout petit peu,
un petit peu d'air, d'oxygène. Et qu'ils en avaient réellement besoin. je tiens à féliciter les ultras parisiens qui étaient encore présents hier et qui ont mis vraiment une ambiance
de folie.
Ouais, vraiment, ouais, ouais. Que ça donnait envie vraiment que l'équipe se tue pour gagner ce match. Et c'était très important, surtout le Mans qui était deuxième avant cette rencontre, et qui chute à la quatrième place. Très dur pour le Mans. Les supporters, les ultras du Mans étaient aussi présents. J'ai eu l'occasion de parler avec eux. C'était une bonne ambiance, amicale, mais vraiment très chaude. Et ça a fait plaisir de voir Paris, surtout à ce niveau-là. Comme tu le dis, une large victoire, 104-88.
C'est la deuxième victoire. Hein,
c'est la deuxième victoire de Paris, donc c'est que la deuxième victoire. Mais ça, si ça pouvait être comme ça toutes les semaines, tous les week-ends, ça serait parfait. Parce que vraiment, on avait une équipe de Paris concentré, avec un plan de jeu défini. Personne n'a été au-dessus de 20 points. Ils ont tous été à 14, 15, 16, 19 points de moyenne. Mais c'est un collectif qui a joué hier. Ce n'est pas des individualités qui ont joué. Et en attaque, ils ont été propres. Ils ont été, il n'y a pas eu de grosses fautes. Personne n'est sorti de son match. Tout le monde a été concentré. Et quand tout le monde va dans le même chemin, on voit ce que ça fait. Et on voit que du côté du Mans, c'est une défense très, très, très faible, en fait, qui a été vraiment des plans de jeu pas très clairs. Il y a Matt Morgan, le meilleur marqueur de la saison, qui a fini avec 27 points. Mais voilà, du côté du Mans, c'était très pauvre. Et heureusement pour Paris, c'est la deuxième victoire. On espère que ce ne sera pas la dernière.
Bah oui, espérons-le. Parce qu'ils font aussi la Coupe d'Europe, Paris.
Oui,
l'Euro Cup. Ça se passe comment, là, en Coupe d'Europe? Moins bien aussi, pareil.
Non, franchement, ils ont bien démarré. Là, on verra les prochains déplacements. Je sais qu'il y a un déplacement prévu à Hambourg d'ici quelques semaines. Ça va être décisif pour eux. Les supporters parisiens, que j'ai eu aussi la chance de parler avec eux, m'ont dit qu'ils espèrent beaucoup de cette compétition, qu'ils espèrent que ça peut... d'un côté, ils ont peur que ça peut soit leur faire perdre encore plus de matchs en championnat, parce qu'il faut se concentrer sur deux compétitions, ou alors peut-être les aider à se mettre dans un rythme. Et franchement, s'ils mettent en place ce que j'ai vu hier soir, ça peut vraiment faire très très mal. Et on l'a vu au match de Eurocup il y a deux semaines... c'était une ambiance de folie avec fumigène, les ultras qui étaient partout dans les tribunes. Et vraiment, ça fait chaud au cœur de voir ça. Et comme je le dis, oui, deux victoires. On espère que ce ne sera pas que la 15e place pour Paris, qui peuvent au moins peuvent gratter le top 10.
Qu'est-ce qui manque à cette équipe on en avait parlé, qui avait failli battre Monaco. Ils avaient fait un gros match.
Très, très gros match face à Monaco. On y avait cru jusqu'au dernier moment. Abou était présent avec moi ce moment-là. Franchement, on y a cru jusqu'à la dernière minute. Malheureusement, c'est un peu comme le Paris volley. Je trouve que c'est la dernière passe, le dernier tir, le dernier geste qu'il faut. Et là, hier soir, pour le coup, j'espère que cette victoire sera un moteur pour la saison. Parce que quand on voit ce qu'ils ont fait sur le terrain et l'implication qu'ils ont mis, comment ils étaient concentrés, à aucun moment ils sont sortis de leur match. Et ils ont parfaitement... C'était vraiment des passes... C'était un peu vraiment des passes rapides, des shoots rapides, c'était beau. Donc vraiment, ce qui leur manque, c'est pas grand-chose, juste qu'ils se concentrent sur ce qu'ils ont fait hier et puis ça devrait aller bien.
Bah, il faut Valentin, il vient régulièrement sur les bases.
C'est ça, parfait.
C'est la porte-bonheur.
Il n'y a pas de souci, je suis là quand il faut.
Voilà, donc ça c'était pour le volley puis le basket, des clubs qu'on suivait régulièrement tout au long de l'année. Alors pas bien loin d'ici, il y avait aussi le tennis sur Bercy, avec la victoire de Rune qui a battu Djokovic. Il a emporté en 3-6, 6-3, 7-5. C'est la première victoire de ce Danois à 19 ans.
C'est historique, tout simplement. Il a affiché un gros niveau de jeu. Et face à Djokovic, il faut quand même le vouloir et le faire. Et... Peu de gens y croyaient, mais franchement, on avait déjà vu un certain niveau qu'il avait affiché dans les anciennes compétitions, mais là, il monte de plus en plus en puissance. Et il y en a beaucoup, quand on voit Carlos Alcaraz, voit tous ces jeunes-là qui arrivent dans le tennis, ça fait chaud au cœur et ça va. Les années à venir sont assurées, ça c'est sûr. Ouais.
Alors Nadal qui a jamais pu gagner sur Roland Garros, sur Bercy, et puis qui a jamais pu faire donc le doublé Bercy Roland Garros, et puis aussi fin de carrière pour Gilles Simon.
Ça fait chaud au cœur, parce que Gilles Simon, pendant quelques années, après sa belle place au classement ATP, on l'avait plus trop vu sur les terrains, c'était un peu difficile, c'était blessure sur blessure, le niveau n'y était plus. Et le Roland Garros, c'est vraiment, j'ai l'impression, le public lui a donné envie de faire une dernière et de clôturer sa carrière sur la meilleure des manières. Et c'est pas avec une qualification en finale ou demi-finale, une victoire, mais ça fait chaud au cœur d'avoir vu une dernière fois Gilles Simon qui arrête sa carrière à 37 ans.
C'est une génération qui s'en va en tennis.
Ouais, c'est de plus en plus qu'on voit.
On en parlait là. Federer qui s'arrête, Simon qui s'est arrêté. Bon, il y a eu Tsonga qui s'est arrêté.
Tsonga et tout.
C'est une génération qui s'en va là.
Ouais, là, je pense qu'on est pendant 2 ans, on va avoir de plus en plus des carrières qui vont s'arrêter petit à petit. Et puis, faut laisser la place maintenant aux jeunes. Et franchement, avec ce qu'on voit, le niveau affiché, moi, je me fais pas de soucis.
Et puis, autre actu sportive, on avait un beau week-end de sport. Ça vous a interpellé, la défaite de Djokovic, même s'il a souvent gagné sur Bercy?
Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, ça veut dire que le sport reprend ses valeurs, qu'on ne peut pas toujours être au top. Et voilà, il a montré pas forcément ses faiblesses, mais l'autre était plus fort ce jour-là. Et lui, peut-être qu'il avait un petit handicap qu'on ne connaît pas. Mais c'est vrai qu'il s'est battu jusqu'au bout. Et voilà, je crois que ça s'est terminé par 7-6, le dernier set. Donc voilà, c'est plutôt...
Oui, 7-5, ça ne se voit pas grand-chose. Mais c'est bien,
Fait.
Et comme disait Valentin, il y a une relève qui arrive qui semble, en tout cas donc être aussi de qualité.
Et cette nuit, on a Caroline Garcia qui va se battre également pour la finale. Et là,
elle est en pleine forme.
Ça fait chaud au cœur là, depuis Roland Garros, ça s'est bien relancé. Et là, on a envie de.
Très sympa.
On espère que pour Caroline, ça va le faire.
Donc, on va l'encourager à distance. Et puis Valentin, il aime le basket, il aime aussi la moto. Et il tombe bien, l'ancien président de la Fédération française de moto. Alors, malheureusement, Quartararo n'a pas pu conserver son titre. On le redoutait depuis quelques temps.
On le redoutait depuis la deuxième partie de saison, où Fabio avait une avance pas confortable, mais c'était quand même pas mal. On a vu pire. Si on compare avec la Formule 1, on a vu beaucoup pire. Et franchement, Fabio, jusqu'au bout, on y a cru. On a même espéré. Mais la marche était trop haute. Ouais. Et là, comme il l'avait dit il y a déjà quelques semaines, il prenait plus aucun plaisir avec la moto qu'il conduisait. Donc, quand tu prends plus de plaisir et que ça ne s'aligne pas, c'est des défaites sur défaites. Tu manques de confiance. Et déjà, il avait chuté en Australie comme en 2019. Ça a été un enchaînement. La deuxième partie de saison pour Fabio, je pense, c'est vraiment à oublier. Et j'espère vraiment que... De toute façon, il a déclaré à l'équipe ce matin, il espère avoir une moto beaucoup plus compétitive et plus performante pour l'année prochaine pour essayer de reconquérir son titre.
Ça s'est passé dans la tête, je crois que c'est ça.
C'est ça.
En fait, le titre, il n'a pas perdu dimanche, il a perdu déjà.
On en parlait régulièrement dans les points moto, à chaque fois, il perdait des points.
C'est une chute en Australie par-ci, c'est un problème moteur par-là, c'est un mauvais résultat, un mauvais tour, il passe... Je ne sais plus dans quel Grand Prix déjà, mais il passe de 10e à 15e en un seul tour. Donc on se dit que, en fait, c'est dès que ça ne s'aligne pas, tu perds confiance en toi, en ta machine. Et à partir de ce moment-là, dès que ce n'est plus la machine, c'est la tête.
Mais c'est bien terminé. Vice-champion du monde, il a été champion du monde. L'année prochaine, il sera nouveau champion du monde.
On y a cru, mais c'était presque mission impossible. Il avait 23 points de retard.
Il fallait deux choses. Il fallait que l'autre casse ou arrête.
Il fallait qu'il arrête. Il ne fallait pas qu'il soit au-dessus de la 15e place. Et il fallait que Fabio gagne le Grand Prix. Fabio a fini 4e et Pecco a fini 9e. Il est champion du monde. Bravo à lui parce que, quand même, une belle saison.
Bagnaia, l'Italien, donc, gagne avec 265 points et deuxième Quartararo, 248.
C'est vraiment... ça s'est joué à peu, mais bon. Il y a un moment donné, je crois que c'est dans les premiers tours, les deux ont un contact entre eux.
C'est ça.
Ça rajoute encore quelque chose et dès qu'il y a un contact, déjà, t'es moins concentré, t'as plus peur pour ta machine et pour toi. Et tu donnes moins de risques et il a fini 4e.
Je crois que c'était de la faute à Bagnaia parce qu'il l'a percuté, il a perdu un petit aileron. Ça aurait pu être plus grave pour lui.
Ça aurait été même pour Fabio. On peut pas refaire l'histoire. Écrit une page encore magnifique de ce sport et du sport mécanique. Donc merci, c'est de monsieur.
Zarco termine, l'autre français termine 8e avec 166 points.
Belle performance pour Zarco. J'espère vraiment que l'année prochaine il aura une moto encore plus compétitive qu'il a cette année, parce que Zarco a du potentiel qui pour moi n'est pas assez exploité. Et franchement, on met beaucoup de lumière sur Fabio, parce que champion du monde, moi je viens de Nice, donc niçois, Fabio, premier champion du monde français. Mais franchement, on a une belle génération, même en moto GP2 qui arrive, donc j'espère vraiment que ça va le faire. Et puis merci à ces deux messieurs de nous avoir livré une saison magnifique. L'année dernière, on a eu la Formule 1. Cette année, on a eu la MotoGP. On espère que ça va se refaire l'année prochaine.
Oui, Jean-Pierre, la moto, elle fait des bonnes audiences.
Absolument.
Elle est redevenue un peu plus intéressante.
Discovery est très heureux. Eurosport également est très heureux. Enfin, c'est une filiale de Discovery. Ils sont très, très heureux parce que la moto, le MotoGP, c'est magnifique. C'est formidable. Il y a beaucoup de spectateurs, téléspectateurs qui regardaient la F1 qui maintenant regardent la moto. parce que c'est impressionnant, quoi. Les angles qu'ils peuvent prendre, la bagarre jusqu'au bout, parce qu'ils sont très proches, ils sont à quelques dixièmes de seconde les uns des autres. Entre le premier et le vingtième, il n'y a même pas une seconde
au niveau des
essais chrono. Voilà, donc c'est magnifique. Et puis les courses Moto 3 également. Moi, je vous invite à regarder les courses Moto 3 du premier au dernier tour. Ils sont roue dans roue, ils se passent, ils se repassent, sans tomber, en général. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment une belle discipline. Et je remercie la Fédération française de moto également pour tout ce qu'elle fait pour également recréer une nouvelle dynamique.
Et surtout quand on voit les séries sur Amazon Prime qui sont arrivées ou sur Netflix pour la Formule 1,
ça
fait vraiment plaisir et vraiment c'est très intéressant. Bon, bien sûr, il y a des choses qui sont très romancées, ça c'est faut dire un peu de divertissement, mais il y a déjà beaucoup de divertissement sur la piste, donc une saison vraiment très passionnante.
Alors justement, vous parliez d'un Moto 3, c'est Irzan Guevara, un Espagnol qui est champion du monde, et puis Augusto Fernandez, l'Espagnol en Moto 2. C'est vrai que l'Espagne a toujours eu des belles écoles de moto.
Voilà. Ils ont des formules jeunes également qui sont quasiment d'un niveau international, qui permettent justement de former les jeunes. Et Quartararo a été formé là-bas. Il a été champion d'Espagne dans cette catégorie-là. Donc, et malheureusement, on n'a pas ce format-là en France, mais peut-être que ça viendra. Et les Italiens, il y en a partout. Vous regardez, il y en a partout à tous les niveaux, en Moto 3, en Moto 2. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'en Moto 3, on n'a pas beaucoup justement de Français actuellement. Il n'y en a qu'un, un jeune. Et ça, c'est quand même l'avenir. Et il faudra qu'on ait d'autres jeunes pilotes qui arrivent en Moto 3 demain.
C'est vrai qu'en Moto GP, sur 24 pilotes, j'étais en train de compter pour être sûr, mais il y a 9 pilotes espagnols. Donc, ça, c'est quand même une belle catégorie. Et puis, il n'est plus à son niveau, mais il y a Marc Marquez, qui est une légende de ce sport et qui, malgré ses blessures, malgré ses opérations, est revenu fort en cette fin de saison. Donc l'Italie et l'Espagne, vraiment des belles années devant eux parce que quand on voit le nombre de pilotes qui est sur la grille.
Et quand on voit qu'en Espagne, il y a trois grands prix d'Espagne qui font chacun 100 000 spectateurs, on se dit que c'est vraiment un pays qui est fait pour la moto, quoi. Avec le promoteur Dorna qui est aussi un Espagnol.
Allez, on vous avait promis de finir par le foot avec le match de l'Atlético. Alors, Eladji est revenu dans nos studios. Eladji, notre ami Abou, il en est où? Tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, je peux vous en dire un peu plus. Il est en train de suivre le match. C'est pas encore fini. Je pense qu'il reste une petite minute.
Oui.
On est dans le temps additionnel. Oui. Et il y a 0-0.
Ah, d'accord.
0-0. Mais bon, c'est pas plus mal puisque le FC Atlético ont pris un carton rouge à la 42e minute. Voilà, du coup, ils sont à 10 contre 11 depuis plus d'une mi-temps. Du coup, voilà quoi. Le match nul, mais bon, à bout de ce qu'il me disait, je pense qu'il nous en dira plus, mais de ce qu'il me disait, même à 10 contre 11, ils étaient prenables. Même à 10 contre 11, l'Atlético avait plus d'occasions, enfin dominait plus les débats que Orléans. Voilà, que Orléans n'était pas dangereux du tout pendant tout, quasi tout le match, quoi.
On va attendre la fin du match.
Et c'est dommage.
C'est ça le direct radio. On va attendre la fin. On a été très, très occupés aujourd'hui. Jean-Pierre, vous avez été champion de motocross.
Oui, en 1970. Oui.
Motocross et puis route, la
route ne m'a jamais trop intéressé. J'ai toujours vu la route comme plus dangereuse que le motocross, même si en motocross, on a souvent des chutes. Je ne me suis jamais rien cassé en motocross, contrairement à beaucoup de mes collègues, beaucoup de petites blessures. Mais voilà, le motocross, très particulier. J'adorais le motocross, surtout quand il faisait mauvais, qu'il fallait rouler dans la boue. C'était mon point fort, quoi. Je partais souvent devant et je finissais souvent devant quand c'était boueux.
Oui, parce que c'est un sport très dur.
Très dur, très dur.
Il faut le dire. Hein,
Très
pas
dur.
Trop de...
Non, je n'ai pas trop de conséquences sur les muscles, articulations. Non, j'ai eu de la chance, finalement. Peut-être que je suis suffisamment solide, mais c'est un sport très très dur, très physique, et à l'époque, en 1970, on n'est pas les suspensions d'aujourd'hui.
Oui.
On prenait beaucoup plus de coups dans les reins, et c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Voilà.
Et puis, naturellement, tout le matériel a beaucoup évolué aujourd'hui.
Moto beaucoup plus souple, plus facile à manier. Avant, quand on avait une 400 Husqvarna et qu'il fallait la lancer, il faut dire que quand vous ratiez le kick, vous remontiez, quoi. Donc, c'était du sport déjà pour la lancer.
Très bien. Donc, on est en train de contacter Abou. Hein. Le match, je pense, doit être terminé à bout de trou. Hein. On va rappeler que le Paris Atlético recevait Orléans et qu'à partir de 20h. dès 1h, c'est-à-dire dans 5 minutes, eh bien, le Red Star va jouer contre Dunkerque. Le match est terminé. C'est ça, c'est le direct. Alors,
Le match est terminé. Je pense que.
El Hadji, donc, Abou, bah, il va tout nous dire sur ce match. Donc, 0-0, Abou. Hein.
C'est ça, 0-0 entre les deux formations, Philippe. L'équipe du Paris 13 Atlético, assez dominatrice hein, lors de la rencontre. Il y a malheureusement ce carton rouge à la 42e minute, deux cartons jaunes en 100 minutes, deux cartons jaunes pour pied haut, qui viennent un peu contrecarrer les plans des Parisiens. Mais une équipe assez dominatrice, malgré qu'elle jouait à 10 contre 11 durant toute une mi-temps. Très très beau match, agréable à regarder. En plus, c'est un Charletti avec du monde. Il y a quand même assez de gens pour cette rencontre-là. Un peu déçu pour les Parisiens, parce qu'il y a ce carton rouge qui vient tout entacher. Mais c'est de bon augure pour la suite, en tout cas.
D'accord. C'est de bon augure, c'est-à-dire que le changement d'entraîneur a quand même provoqué des effets ?
C'est ça. Le changement d'entraîneur, pour l'instant, en tout cas, de ce que moi je vois et de ce que je constate, contrairement au match précédent, il y a un réel changement. Il y a des changements d'hommes aussi. Il y a Oumar Sidibé qui n'était pas titulaire hein, depuis le début de la saison, qui l'est désormais. Et on a l'impression qu'il y a vraiment eu un réel changement, en tout cas, sur le jeu. Et c'est de très bon augure pour la suite. Après, maintenant, il va falloir corriger quelques imperfections. Parce qu'à ce stade, à ce niveau-là, on n'a pas le droit de faire deux fautes qui pénalisent l'équipe comme ça en l'espace de 5 minutes.
Est-ce que je peux poser une question à
oui,
vous
oui, bien sûr.
En tant que président du comité du fair play du sport sans violence, est-ce que les supporters se sont comportés correctement ce soir ?
Très, très, très bien comporté, franchement, du fair play de la part des deux équipes. Les supporters orléanais qui étaient en nombre également aujourd'hui au stade Charletti, très, très bien comporté.
Bravo. Bon, voilà. Eh ben, merci à vous de nous avoir fait vivre ce match sur Twitter et puis de nous avoir donc résumé donc, cette partie. Bon retour dans nos studios, t'as pas le droit à faire. Hein. Voilà, en tout cas. Merci en tout cas.
Merci
Valentin. Merci donc. Elle
merci
a dit, Jean-Pierre, merci, ça a été un réel plaisir. Quelle émission, on les a gâtés.
Quelle belle émission, merci, avec des beaux témoignages. Voilà. Bravo pour cette émission.
Voilà, et puis on va remercier Jason hein, d'avoir été nouvelle fois très brillant aux manettes. On finit avec Youssoufa, Ami Piano. Et puis rendez-vous donc la semaine prochaine avant d'entrer ensuite en configuration mondiale. Bonne soirée à toutes et à tous. À la semaine prochaine.
La nouvelle école et de l'ancienne, on cogne et on foque ceux qui renseignent. La police contrôle et nous encercle. Je rappe pour les mômes et mes ancêtres. Album sur iPhone et sur vinyle. Je kiffe sur ton corps et ton feeling. Il n'existe pas de mauvaise fin. Quand c'est mauvais, ça veut dire que c'est pas fini. Mais qui sera là dans ma descente? Et qui sera là si je déchante? Comme disait Duxaga, la légende. Les gens n'aiment pas les gens, mais aiment l'argent des gens. Ghetto à Place Vendôme. Négro Rolls Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir. J'alterne la lumière et le bon char. Arma piano. Regarde l'avenir, pas le rétro. Mon Dieu, je suis béni d'être un négro. Un jour, je rappe dur dans le métro. Demain, autotune dans le Merco. Costard et liqueur, je suis Gatsby. Mon cœur pour mes sœurs, je pars au casse-pipe. Comme disait le poète, y'a pas assez d'amour dans le monde pour qu'on le gaspille. Je suis au-dessus des lois et des conflits. C'est même plus du rap, là, je me confie. J'écoute plus mes boucles, j'écoute Kofi. J'ai perdu le goût avant le Covid. Ghetto à Place Vendôme. Négro Rolls Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir. J'alterne la lumière et le bon char. Arma piano. Arma piano. Arma piano. Arma piano.
fait